Ce soir, à l'émission Connaître la suite, on s'entretient avec M. Germain Belzile, directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Également, on a le plaisir de recevoir pour la première fois Philippe David du Mini-Archiste québécois. On se retrouve dans quelques instants. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le nouveau XM156. Bien oui, on a changé de position cette semaine. J'espère que ça l'a pas fait mal de votre côté. De notre côté, ça a pas fait mal, hein, mon Danny, on est en pleine forme.
Non, ça a craqué un peu le dos,
mais tu sais, un changement de canal comme ça, des fois, là, les déménagements sont difficiles, mais là, pour nous, ça a été hyper simple. Donc, c'est simplement une reprogrammation et je vous dirais que tout ça, c'est assez transparent pour ceux qui nous écoutent de un sur Internet et pour ceux qui vont télécharger l'émission, il y aura aucun changement pour vous. C'est vraiment pour les abonnés XM, donc vous devez syntoniser maintenant le XM156, le 172 est maintenant mort en bon québécois, donc il n'existe plus. Et incessamment, en tout cas, on attend toujours des nouvelles à savoir si on fera notre entrée sur les ondes de Sirius, parce que présentement, on est disponible évidemment uniquement aux abonnés XM au Canada, malgré la fusion annoncée et qui est en cours présentement au niveau de Sirius XM. Donc, je sais que les gens sont impatients, les gens veulent avoir le contenu du 172 sur la radio Sirius. Dites-vous que tout ce beau monde-là va sûrement prendre toutes ces choses-là en considération. Je vais débuter immédiatement parce que cette semaine, on a encore une émission assez chargée et puis on veut toujours profiter au maximum de nos invités. Et la première chronique ce soir a été inspirée en fait des petites publications qu'on met à tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué au www.connaîtrelasuite.com, il y a une section qui s'appelle Vigilance et tous les jours, on met les nouvelles qui sont d'intérêt vraiment, je veux dire, d'un point de vue vigilance, on aime observer un peu ce qui se passe sur la scène, que ce soit politique ou économique. Et on avait mis une nouvelle, justement, il y a de cela quelques jours, donc le 29 avril, une nouvelle qui était tirée du Journal de Montréal, qui s'intitulait « Le PIB a reculé en février ». Et on a Claude qui avait demandé à savoir si on pouvait pas un peu, justement, vulgariser ces mots-là, qui sont assez souvent utilisés, soit à la télé, dans les médias ou par les économistes. Donc, il y a un langage assez souvent qu'on retrouve et on s'est dit, et là, on a le plaisir ce soir, évidemment, de parler à quelqu'un qui, pour nous, représente bien l'adjectif pédagogue. Quand on dit de quelqu'un qu'il est pédagogue, en fait, c'est qu'on dit qu'il a le don de l'enseignement. Et pour nous, on s'est dit, pour faire une chronique comme ça, donc pour démystifier et vulgariser le vocabulaire économique, on va aller chercher quelqu'un qui peut justement bien nous transmettre l'information. Je le présente comme il faut parce que j'ai l'impression que la première fois, j'ai oublié peut-être d'indiquer le parcours de notre invité. Et je vous dis, avoir une feuille de route comme ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Donc notre prochain invité est un économiste né à Chicago. Il détient un bac baccalauréat en économie mathématique de l'Université Laval, une maîtrise en sciences économiques de l'UQAM. Il a suivi aussi des études doctorales en sciences économiques à l'UQAM. Bref, il se spécialise en théorie macroéconomique, politique macroéconomique, monnaie et banque, ainsi que l'économie internationale. Aussi, il a enseigné évidemment pendant 25 ans à l'HEC de Montréal et à l'UQAM. Il est aujourd'hui directeur de la recherche de l'Institut économique de Montréal. J'ai nommé M. Germain Belzile. Bonsoir, M. Belzile.
Bonsoir, merci, mon Dieu, vous êtes très élogieux, vous mettez beaucoup de pression, là.
Mais toute une feuille de route, sérieusement, puis la première fois, on n'en avait pas fait mention, mais là, j'ai dit, j'ai pas le choix, faut que je souligne, et j'ai dû aussi la restreindre parce que, puis je vais en faire mention, je lisais justement, et ça, c'est disponible sur Wikipédia, vous vous considérez comme un économiste de tendance libertarienne, donc on peut lire ça aussi à votre sujet, et on voit aussi que vous avez écrit ou vous êtes le co-auteur d'un livre qui, somme toute, semble parcourir les universités francophones canadiennes, le livre « Principes de microéconomie ». Donc, vous êtes bien implanté dans le domaine de l'éducation.
Oui, bien en fait, j'ai beaucoup d'intérêt du côté de la pédagogie. J'enseigne, j'adore enseigner à l'école des HEC. J'enseigne encore à l'école des HEC. Et c'est un de mes intérêts. Et puis effectivement, le livre dont je suis le co-auteur, c'est le best-seller en micro et en macroéconomie dans les universités canadiennes francophones.
Donc, on pouvait pas avoir mieux ce soir pour vulgariser justement tous ces termes-là qu'on peut entendre, donc le vocabulaire économique. Et ensemble, on a sélectionné là, justement des mots qu'on retrouve assez souvent, soit dans les nouvelles justement qui sont popularisées par, divulguées par les médias. Le premier mot qu'on voulait démystifier ensemble ce soir, parce qu'il y en a énormément, et puis on va se restreindre aux principaux. Le premier mot qui fait peur à tout le monde, là, c'est récession. Donc, ce mot-là fait bien peur aux gens. Et en quelques mots, justement, comment on peut expliquer ou vulgariser le terme récession?
OK. Alors, une récession, c'est une période pendant laquelle la production dans une économie diminue. Donc, c'est ce qu'on appelle le PIB réel. C'est la production totale de l'économie. Mais pendant cette période-là, la production diminue. Il n'y a pas de définition du dictionnaire d'une récession, mais il y a une définition qui est de plus en plus utilisée. C'est une définition américaine. Et c'est une baisse du PIB réel, donc de la production, pendant deux trimestres d'affilée.
Donc, on peut dire qu'une récession,
il faut qu'il y ait au moins 6 mois d'affilée avec une baisse du PIB réel.
Donc, une récession, c'est une tendance, justement, à une diminution du PIB. Et c'est pour ça qu'on peut arriver à l'utilisation de ce mot-là.
C'est ça.
Puis par opposition, bon, évidemment, récession, on sait que présentement, justement, aux États-Unis, on sort d'une récession. Est-ce qu'il y a un mot qu'on peut utiliser par opposition à la récession?
Oui, on va souvent parler d'une expansion économique. Quelquefois, quand c'est la sortie d'une récession, on parle d'une reprise aussi. Mais dans les deux cas, là, c'est que le PIB réel se remet à monter. Donc, on se met à produire plus de tout ce qu'on produit dans l'économie, ce qu'on appelle des biens, donc des choses qu'on peut toucher, là, puis des services.
OK, donc
on les produit aussi, mais on peut pas les toucher.
Donc, justement, vous avez fait mention à quelques reprises là, dans les dernières secondes du PIB. Donc, ça, c'est le produit intérieur brut. Ça se trouve être, comme vous mentionnez, des produits et des services. Est-ce que c'est, en fait, tout ce qui est créé à l'intérieur d'une économie?
Oui, c'est tout ce qu'on produit dans une économie. On s'organise. Ben, premièrement, si on produisait seulement du blé, ça serait assez simple. Hein? On mesurerait ça en tonnes, sans doute. Alors, cette année, on a produit tant de tonnes, puis l'année passée, on a produit X millions de tonnes. Mais comme on produit des biens, donc des choses qu'on peut toucher, puis est-ce qu'on pourrait additionner ça ensemble? Puis les tonnes de voitures, les tonnes de blé, les tonnes de stylos, ça fait pas tellement de sens. Hein? Puis on produit aussi des services, à peu près 72% de ce qu'on produit dans l'économie canadienne, c'est des services. C'est des choses qu'on peut pas toucher. Des services médicaux, des services comptables, des services radiophoniques, bon, etc., etc. Donc, il faut qu'on trouve une sorte de dénominateur commun à tout ça. Quelles mesures on va utiliser? Est-ce qu'on va peser tout ça? On peut proposer un service. Alors, ce qu'on a trouvé comme moyen, c'est de mesurer la valeur de ce que l'on produit. Alors, le PIB, c'est la valeur de tout ce que l'on produit dans l'économie, autant des biens que des services.
Et à ce moment-là, quel référentiel on utilise? Parce que j'imagine on compare beaucoup les PIB entre pays. Donc, est-ce que c'est converti en dollars puis ramené sur une monnaie?
Oui, en général, chaque pays mesure le PIB dans sa propre monnaie. Maintenant, quand on veut comparer les PIB entre les pays, on les met dans une monnaie commune. En général, on va plutôt choisir le dollar US, okay. Parce que à l'échelle mondiale, tout le monde connaît le dollar US. Puis quelquefois, on va simplement mettre les PIB des autres pays dans notre propre monnaie. Okay. Faire des comparaisons.
Et justement, comment on comptabilise ce PIB-là? C'est des agences gouvernementales? Parce que on voit souvent dans les médias que c'est Statistique Canada qui semble compiler ça au Canada?
Oui, au Canada, c'est l'organisme national de statistique qui s'appelle Statistique Canada. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent à Statistique Canada, puis il y en a pas mal là-dedans qui travaillent à compiler le PIB. En fait, vous pouvez vous imaginer qu'ils ne calculent pas toutes les petites choses qu'on produit. Là, il y a des statistiques qui sont utilisées pour mesurer ça. Mais on arrive à une assez bonne approximation parce qu'il y a plusieurs façons de calculer le PIB, puis on arrive à peu près au même résultat avec les différentes méthodes. Ça fait que ça, on a l'impression, grâce à ça, qu'on est pas mal. En passant, l'organisme statistique national qui a la meilleure réputation sur la planète, c'est Statistique Canada.
Ah oui? Quand on se compare, c'est vraiment solide en termes de statistiques?
Ah, tout à fait. Ben écoutez, il y a pas mal de choses qu'on fait ici qui sont un peu pic-pic, là, puis on voit ce soir pas nommer pas mal. Mais au niveau des statistiques nationales, on a une grande, grande réputation. Puis on pourrait même ajouter qu'il y a plein de statistiques qui ont été inventées au Canada, des statistiques pour l'économie, là. Et puis des méthodes statistiques aussi qui ont été inventées. Okay. Puis on a une très, très bonne réputation, en fait.
Justement, sur notre site Internet, quand on affichait le 29 avril que le PIB avait reculé en février, puis on parle d'une diminution, en fait, en février de 0,2% versus une augmentation au premier mois de l'année qui avait été de 0,5%. Est-ce qu'on doit s'alarmer quand on voit des virgules comme ça, là, des dixièmes de pourcent, là? Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce que c'est parce qu'on est trop précis dans la mesure?
Pas vraiment. D'un mois à l'autre, il peut se passer toutes sortes de choses. Il peut y avoir un événement. Mais tiens, par exemple, il y a quelques étés, il y a eu une grosse panne électrique qui a duré une semaine dans le sud de l'Ontario puis dans le nord-est des États-Unis. Le PIB canadien a baissé dans ce mois-là puis dans le mois suivant aussi. Parce que plein d'usines qui étaient fermées. Puis, donc, il peut se passer des choses à court terme. Puis il faut regarder plutôt la tendance.
Okay.
Et puis, donc, c'est sur une base d'un an, deux ans, trois ans qu'on regarde ça. Et puis, au Canada, il faut que notre production augmente à peu près 2,5%, 2,5% pour que... ça, c'est la tendance à long terme, si on veut. Okay. 2,5%. Si on est en bas de ça, là, d'habitude, ça va créer des problèmes. Les entreprises vont mettre des gens à pied parce que la production augmente pas assez. Puis le taux de chômage va se mettre à monter. Okay. Et si on a plus que 2,5% d'habitude, le taux de chômage a plutôt tendance à baisser dans ce temps-là.
OK. Et puis, on voit aussi qu'il y a des grandes fluctuations quand on parle du PIB, là, parce qu'on y va assez souvent par secteur. On voit que, exemple, dans l'automobile, là, je prends toujours le mois de février comme référence, il y avait une chute de 7,5% dans ce secteur-là. Donc, c'est des secteurs qui assez souvent vont impacter directement, j'imagine, le PIB. Quand on parle aussi au pétrole, tout ça, ces variations-là.
Ah oui, tout à fait. Mais quand le PIB canadien augmente de 2,5%, ça ne veut pas dire que tous les secteurs augmentent de la même façon. Il y a des secteurs qui peuvent se contracter, il y a des secteurs qui peuvent augmenter plus vite. Et puis, le secteur manufacturier, en général, c'est un secteur qui est plutôt cyclique. Quand il y a une récession, en général, ça frappe plus durement le secteur manufacturier. Puis quand il y a une forte expansion, en général, le secteur manufacturier, il augmente plus vite que les autres secteurs.
Ah, OK.
Alors qu'il y a des secteurs qui ne sont pas tellement touchés par les récessions comme... la santé, par exemple, les soins de santé, les services de santé, c'est pas tellement touché par le fait qu'on a une récession ou pas. Mais la production d'auto, de téléviseurs, de choses comme ça, c'est très touché parce que les gens achètent moins d'auto, évidemment, quand il y a plus de chômage.
Ça, c'est un des avantages pour un pays de pas se spécialiser trop dans un domaine. Si on a une économie diversifiée, elle va avoir moins d'impact lors des crises dans un secteur alors que l'autre va bien.
Effectivement, si on est diversifié, on est un peu protégé, on s'est couvert, comme on se couvre contre des risques, si on veut, là, parce que si un secteur va mal, ben il y a des chances qu'il y ait d'autres secteurs qui aillent mieux, effectivement.
Là, on vient de parler beaucoup du PIB. Il y a aussi le PNB, donc qui est le produit national brut. C'est quoi la différence?
OK. Alors, le produit intérieur brut, c'est la définition qu'on utilise maintenant, bon, depuis une vingtaine d'années, à peu près partout sur la planète. La définition ou la mesure de la production d'un pays qu'on utilisait avant 25 ans, c'était plutôt le produit national brut. La différence entre les deux est assez petite, assez subtile. Au Canada, la différence entre le PIB et le PNB, c'est moins de 2%. La différence est toute simple, toute subtile. Le produit intérieur brut, le PIB, c'est la production qu'on fait à l'intérieur des frontières d'un pays ou d'une province ou d'une ville ou d'une région. Le produit national brut, c'est la production qui est faite par les résidents d'un endroit, d'un pays, par exemple.
Ah, OK.
Puis il est possible que les résidents canadiens participent à la production d'un autre pays. Puis il est possible que les résidents d'un autre pays participent à la production canadienne. C'est cette petite différence-là là, qui... au Canada, c'est au Québec, il n'y aurait pas de différence. Il y a des pays où c'est important, par exemple. En Irlande, le PIB est en tout cas avant la crise, là, il était presque 20% plus élevé que le PNB.
OK.
Et puis pour eux autres, ça fait une grosse différence quand on mesure un ou quand on mesure l'autre.
Et les investisseurs étrangers, quand ils investissent ici à l'intérieur de nos terres, est-ce que c'est considéré à l'intérieur de notre PIB ou comment ça fonctionne?
OK, ben en fait, la différence, si on veut y aller d'une façon plus technique, là, la différence entre le PNB et le PIB, elle est justement là. Quand on produit des biens, des services, ça crée un revenu. Et puis, tout le revenu qui est créé à l'intérieur d'un pays, ça nous permet de mesurer le PIB. Et puis, tout le revenu qui est reçu par les résidents d'un pays, c'est ce qu'on appelle le PNB.
Ah, okay.
Et la différence entre les deux, c'est tout simplement les investissements de nos citoyens à l'extérieur versus les résidents des citoyens étrangers au Canada.
OK. Donc, si on est équilibré en ce sens-là, ça veut dire qu'on est, somme toute, aussi, je dirais, moins dépendant des investisseurs étrangers, puis on n'est pas un peuple nécessairement porté à faire beaucoup d'investissements à l'étranger. Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
Ben, on prête beaucoup à l'étranger, mais les étrangers nous prêtent beaucoup aussi.
Oui, c'est ça.
Et puis, donc, ça s'équilibre. Pas parfaitement, là, mais la différence par rapport à la taille du PIB, parce que le PIB, c'est gigantesque. C'est de l'ordre de, par année, là, c'est de l'ordre de 1600 milliards de dollars par année, okay, au Canada.
Et donc,
c'est pas des peanuts, là. C'est des montages gigantesques.
Et le PIB, on l'utilise vraiment souvent. Est-ce que, justement, si on veut élargir un peu les horizons, est-ce que le PIB par habitant au Canada ou au Québec est comparable à ce qu'on retrouve dans le monde? Parce que il y a un mot que vous aviez suggéré, qui est le mot productivité. J'imagine que le PIB, la productivité, d'un point de vue économie, c'est intimement lié.
Oui, tout à fait. En fait, le PIB par habitant, on dit aussi per capita, c'est du latin, mais par habitant, au Canada, on est certainement dans les 10 premiers sur la planète. Et puis, quand on regarde les pays qui ont des PIB par habitant élevés, puis ceux qui ont des PIB par habitant faibles, la différence entre les pays riches puis les pays pauvres, si on veut, ça relève à peu près entièrement de la productivité. La productivité, c'est notre efficacité à produire. Si la productivité est élevée, ça veut dire qu'on est très efficace pour produire des biens et des services. Ça veut dire que dans une heure de travail, on produit une grande valeur de biens et de services. Si on n'est pas efficace, dans une heure, on produit pas grand-chose. Juste pour vous donner un chiffre approximatif, là, au Canada, on produit pour à peu près 54 $ pour chaque heure travaillée. Alors, un travailleur moyen au Canada, il produit en moyenne pour 54 $ de biens et de services. Ça, c'est évidemment bien différent d'une personne à l'autre. Un neurochirurgien, j'imagine que ça produit pour plus que 50 $ de l'heure. Et puis, quelqu'un qui travaille à la caisse d'un dépanneur produit peut-être pas une valeur aussi grande, par exemple. Mais en moyenne, 54 $. Mais il y a des pays où un travailleur moyen produit pour 2 $ ou 50 cents de l'heure en moyenne.
Okay.
C'est ça qui fait la différence entre les pays riches et les pays pauvres.
OK. Puis, ultimement, j'imagine que le PIB, puis je pose la question parce que la semaine passée, on faisait le comparable, justement, on sait que l'État intervient beaucoup dans l'économie, puis injecte beaucoup d'argent. Quand on dit créer, justement, de la valeur puis de la productivité, comment est-ce qu'on calcule quand le gouvernement, il va, justement, de l'octroi de budget, puis stimule l'économie en injectant de l'argent, soit par des mesures ou par l'embauche de fonctionnaires? Est-ce que c'est calculé? Comment est-ce qu'on ramène tout ça?
Oui, mais la production du gouvernement, elle est calculée dans le PIB. Le gouvernement, il produit des choses. Au Canada, de tous les paliers de gouvernement, là, fédéral, provincial, local, municipal, c'est à peu près 20% du PIB,
okay,
approximativement, plus ou moins 1%. Là. Mais donc 80% de ce qu'on produit au Canada, c'est fait par par des gens qui travaillent dans le secteur privé. Soit des gens qui travaillent pour des
entreprises. Ouais.
Ou qui travaillent de façon autonome ou autre. Là. Mais à peu près 20% de la production canadienne, c'est les gouvernements. Puis c'est quoi? Ben c'est les services de santé, d'éducation, la police, les fonctionnaires, évidemment, les gens qui encaissent nos impôts aussi, nos taxes et tout le reste. Là. Et ça entre dans la valeur de la production. Pour le gouvernement, ce qu'on calcule d'habitude, c'est ce que ça coûte pour produire les biens. C'est comme ça qu'on mesure la valeur des biens et des services.
On n'a pas systématiquement, j'imagine, mis une valeur à tous les services qui sont octroyés. Là. Ça doit être assez...
Non, justement, d'ailleurs, c'est un problème parce que quand on produit une voiture puis qu'on la vend à 25 000 $ ben on met 25 000 $ dans le PIB, on sait combien ça vaut. Mais quand un fonctionnaire produit des rapports, ça vaut combien? Ils sont vendus, ces rapports-là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on mesure tout simplement combien ça a coûté pour les produits. Okay.
Mais justement, dans l'objectif de ramener peut-être, parce que je sais pas si c'est véridique, mais on sait que Lucien Bouchard, avec son manifeste, puis tous les gens qui avaient signé ce manifeste-là, avaient donné un regard assez sévère par rapport justement aux Québécois et à leur niveau de productivité. Est-ce que statistiquement, c'était fondé? Parce que, somme toute, si on dit qu'on produit quand même 54 $ en moyenne, puis qu'on se situe dans les 10 pays les plus productif, est-ce que c'était un regard qui était mérité?
Oui, en fait, au Canada, on est pas mal, mais au Québec, par rapport à la moyenne canadienne, on fait un peu pic-pic.
OK.
notre productivité puis notre PIB par habitant est un bon 15% en bas de la moyenne canadienne. Ça se reflète par nos revenus qui sont plus faibles. Hein. Les Québécois gagnent moins cher de l'heure que les Ontariens ou les Albertains. Les Albertains, c'est...
Ouais.
C'est pas compliqué. Leur PIB par habitant est plus que le double de celui du Québec.
Parce que à quelque part, la productivité ou le PIB par capita, c'est le pouvoir d'achat aussi des consommateurs.
Ah, exactement. Si on ne produit pas grand-chose, on n'a pas grand revenu à se partager entre nous autres ensuite. Là.
OK.
On a beaucoup de plus taxé ou moins taxé, ça ne change pas grand-chose. Si on produit pour 10$ par jour, c'est 10$ de revenus qu'on peut se partager entre nous autres, tout simplement. Là.
Ben justement.
Et puis, nous autres, on est vraiment dans la queue complètement du peloton. Okay. On est bien en bas de l'Ontario, de l'Alberta et de provinces plus riches, mais il y a juste l'Alberta qui figure bien au Canada dans les provinces par rapport aux États-Unis.
Okay.
Si on se compare aux États américains, par exemple, là, il y a 50 États américains, là, on serait quelque chose au Québec comme, 48e, peut-être, là.
OK.
Et donc, on est pas mal en queue de peloton, là. Puis c'est une grosse différence, hein. Si on produisait 10 000 $ de plus par année par personne, au Québec, là, il y aurait pas de déficit budgétaire, on aurait des gros surplus budgétaires, puis on pourrait s'en payer des choses, on pourrait baisser les impôts, puis etc., là. C'est très important. En fait, c'est la chose la plus importante, la productivité.
Puis quels sont les plus importants leviers, là, sans faire un cours d'économie, là, mais qui peuvent augmenter comme ça, justement, la productivité? Est-ce que c'est de baisser les impôts? Est-ce que c'est, justement, de contrôler l'inflation? Je sais pas. Comment on peut s'assurer qu'on crée beaucoup de richesses?
Bien, la productivité est grande quand on a beaucoup d'équipements. Quand un travailleur travaille avec juste un marteau puis une scie, une aiguine, il peut pas dire grand-chose.
Okay.
S'il y a plein d'équipements, s'il y a une scie ronde, puis il y a plein d'autres équipements, il va être capable de poser beaucoup plus de choses dans une heure de travail. Alors, ben ça, cet équipement-là, ça tombe pas du ciel, ça provient de l'investissement. Quand on investit, on est en train d'acquérir de l'équipement de production. Et puis, ben si on veut qu'il y ait un investissement, ben il faut pas qu'on enlève tous les profits des compagnies, parce que la raison pour laquelle les entreprises investissent, c'est-à-dire acquiert de l'équipement de production, c'est pour faire de la production, pour faire des profits. Et puis, à cet égard-là, on est sur la bonne voie au Québec pour Canada. On baisse l'impôt sur les profits des compagnies depuis quelques années. Puis d'ailleurs, là, vous me permettrez une remarque personnelle, là, mais Dieu soit loué, les conservateurs ont été élus majoritaires. Et puis, on va donc avoir des baisses d'impôts sur les profits des sociétés. Puis ça, c'est le facteur numéro un. Puis d'ailleurs, au Canada, ça fait 25 ans que notre investissement est plutôt minable par rapport à plein d'autres pays. Et puis, ça, c'est un facteur qui est très, très, très important, là, les impôts sur les profits des sociétés.
Oui, et puis d'ailleurs, ici à l'émission, on avait lu le papier qui avait été écrit par Vincent Gélosso et M. Guénette, là, Guérette ou Guénette?
Guénette
de l'Institut économique, justement, qui était assez percutant avec des statistiques appuyées. Puis, Justement, un des mots qu'on avait noté dans le vocabulaire ou qu'on retrouve dans le vocabulaire économique, c'est l'indice des prix à la consommation. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche directement. Justement, quand on n'a pas une productivité importante, ben on est directement impacté quand on voit ces chiffres-là à la hausse. Donc, qu'est-ce que le prix, justement, qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation et comment on en arrive à mesurer cet indice-là?
OK, ben l'indice des prix à la consommation, c'est une espèce de moyenne des prix des biens puis des services de consommation qu'on achète. Si la seule chose qu'on produisait et qu'on consommait, c'était du blé, ça serait pas compliqué. L'IPC, ça serait le prix du blé. Mais comme on produit et qu'on consomme des céréales, puis du lait, puis des pneus pour des voitures, puis des tickets d'autobus, puis etc., ben, il faut qu'on fasse une sorte de moyenne de ça.
Okay.
Et puis la moyenne de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. C'est un indice qui est techniquement, on appelle ça un indice sur base 100, c'est-à-dire que lors d'une année de base, l'IPC est égal à 100. Et puis, si le mois d'après, il est passé à 101, ça veut juste dire qu'en moyenne, okay, les prix ont augmenté de 1%.
Puis, les gens ont une perception que les prix augmentent beaucoup, surtout dans le domaine, là, justement, où dans les épiceries, là, tout le domaine lié à l'alimentation. Est-ce qu'on est dans une recrudescence de l'indice des prix à la consommation? Ou
L'inflation est pas très élevée, mais il y a deux catégories de biens. Bon, mais quand on calcule l'IPC, l'indice des prix à la consommation, il y a 8 catégories. C'est encore Statistique Canada qui calcule ça. Il y a 8 catégories de biens et de services. Il y a le logement, il y a la nourriture, il y a le transport, bon, etc. Et puis, la catégorie transport, les prix ont augmenté beaucoup parce que ben c'est le prix des billets d'avion, c'est le prix d'un litre d'essence, etc. Puis évidemment, quand le prix du pétrole ou de l'essence monte, ben ça touche beaucoup, beaucoup de prix dans le transport. Puis l'autre catégorie, c'est la nourriture. Puis les prix de la nourriture ont augmenté beaucoup, beaucoup depuis 2 ans. La raison importante derrière ça, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a vraiment un consensus là-dessus, là, c'est que les gouvernements un peu partout dans le monde se sont mis à encourager les producteurs de maïs, entre autres, puis d'autres céréales, à vendre leur céréales à des producteurs d'éthanol.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça, il y avait un beau reportage d'ailleurs à Radio-Canada là-dessus, parce qu'on voyait que on a créé un peu aussi cette inflation au niveau des...
Ah, tout à fait. Puis nous autres, ça nous touche. Puis c'est pas drôle quand on va à l'épicerie puis ça coûte plus cher. Mais imaginez, dans un pays pauvre, vous dépensez 80% de votre revenu pour vous acheter de la nourriture. Puis le prix de la nourriture monte de 25%, mettons, là. Mais là, ça va mal. Ça va vraiment mal. Et puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui argumentent que le printemps arabe, c'est entièrement dû à ça. Les prix de la nourriture avaient monté en Égypte, en Tunisie, partout. Puis c'est ça qui a été l'étincelle, là, qui a fait que les gens se sont mis en maudit.
Puis justement, si on se compare par rapport à l'indice des prix à la consommation, parce que on est collé sur nos voisins américains, on a l'impression que le pouvoir d'achat là-bas est toujours plus important qu'ici au Québec. On n'a pas l'impression que, puis si on compare, surtout dans le domaine de l'électronique, tout ce qui est voiture, tout ça, on a l'impression que là-bas, les prix sont pas aussi en progression que nous ici. Est-ce que c'est encore là, on est comparable?
En fait, l'inflation aux États-Unis puis l'inflation au Canada, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a une chose qu'on remarque quand on traverse la frontière, c'est que les prix sont beaucoup moins élevés aux États-Unis.
Ouais.
Et ça, c'est beaucoup, beaucoup à cause du taux de change. Le dollar canadien est rendu à quoi? 1,06 $ à peu près maintenant?
Ouais, à peu près, ouais.
Quelque chose comme ça. Ben, normalement, les prix au Canada auraient dû s'ajuster suite à ça. Par exemple, une voiture, quand le dollar canadien valait 20% de moins que le dollar US, c'est normal qu'une voiture au Canada vaille 20 plus cher, coûte 20% plus cher qu'une voiture aux États-Unis, juste à cause du taux de change. Mais là, les taux de change sont égalisés, puis les prix ne sont pas ajustés parfaitement. Puis ça, pourquoi? Ben entre autres, ils s'ajusteraient parfaitement si les gens pouvaient traverser la frontière librement, puis dire, ben c'est moins cher aux États-Unis, c'est que j'achète aux États-Unis. Fait, qu'est-ce que vous pensez que les marchands seraient obligés de faire, puis les producteurs seraient obligés de faire au Canada? Il faudrait qu'ils ajustent leur prix. Il n'y aurait pas le choix. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit d'aller aux États-Unis. C'est compliqué. Ou si vous avez le droit, c'est très compliqué. Comme vous pouvez vous acheter une voiture aux États-Unis. Mais c'est un méchant paquet de troubles à ramener, puis tout le reste, là. Puis à cause de ça, ben, les prix, ils s'ajustent, mais ils s'ajustent lentement.
Mais justement, je suis un néophyte. Si on rouvre les frontières, ça veut donc dire que tous les produits et services que peut-être on produit au Canada pourraient être dévalués à la baisse. Parce que si on veut être plus compétitif, et là, notre PIB serait affecté. C'est-tu vrai de dire ça ou là, je suis commets une erreur?
Oui, mais on s'ajusterait à ça assez rapidement.
Oui.
Au fait que, oui, bon, on se mettra à produire plus des biens pour lesquels on a un avantage, puis moins des biens pour lesquels on n'a pas un avantage.
Okay.
Mais les consommateurs, eux autres, ils seraient des gagnants sur toute la ligne. Moi, je peux vous dire, je vais aux États-Unis une fois par mois à peu près parce que mon fils travaille là-bas. Puis c'est fascinant de voir les différences de prix. Là. Mm-hmm. À peu près tout coûte remarquablement moins cher.
Mais
ça, il y a d'autres facteurs aussi, comme par exemple le lait. Un gallon américain de lait, à peu près 4 litres de lait, c'est 2,49 dans l'État de New York, près de la frontière. Ici, un 2 litres de lait, c'est combien? 4 $?
Ah oui, facilement, oui.
OK, bien 4 litres, 2,50
aux États-Unis. Ça n'a pas de sens.
Oui. Les constructeurs automobiles, eux, c'est-tu parce qu'ils voient le marché canadien autrement, puis ils disent, ben, vu qu'on est moins de Canadiens, l'offre est plus basse, donc ils se permettent d'avoir des prix comme ça? Ou...
Ben, en fait, tant qu'on est captif dans le marché canadien, puis qu'on peut pas librement aller acheter nos voitures ailleurs, ils peuvent s'en tirer en vendant plus cher dans un marché que dans l'autre. Et puis, c'est ce qui se passe actuellement. Si on voulait vraiment... Ben, tiens, par exemple, en Europe... Depuis qu'ils ont ouvert complètement les frontières à tout, là, ben il n'y a plus de différence de prix entre la France, puis l'Italie, puis la Belgique, par exemple. C'est les mêmes prix partout. Évidemment, sauf les taxes, là. Quand on ajoute les taxes, il peut y avoir une différence. Mais sinon, ils n'ont pas le choix. En plus, c'est tout en euros. Fait que les gens s'en rendent compte quand tu as des différences de prix, hein. Et puis, ils vont faire 100 km pour aller chercher quelque chose qui est moins cher si la différence est importante. Les producteurs ont pas, c'est ce qu'on appelle mon Dieu, le mot m'échappe là, mais il y a une égalisation des prix qui se produit. Ça, on peut pas avoir deux prix différents pour la même chose si les gens peuvent librement aller acheter un endroit ou à l'autre. Hein.
Donc le libre-échange a facilité un peu ça, mais on n'est pas encore d'un point de vue consommateur à la porte là, de voir ça aussi, là, parce qu'on sent pas qu'il y a une ouverture très grande des frontières. Là.
Ah non, mais écoutez, vous pouvez le voir facilement. Essayez de revenir aux États-Unis avec 6 bouteilles de vin, par exemple.
Ben oui, c'est ridicule.
Vous pouvez toujours le faire en les cachant, là, mais mais vous n'avez pas le droit de le faire. Là. Mais si on avait le droit d'acheter n'importe où, là, ben on n'aurait pas des prix plus élevés ici puis des prix plus faibles ailleurs. Nos prix s'ajusteraient.
Je continue avec le vocabulaire. Déflation et inflation, ça, c'est des mots qui nous font peur. Comment est-ce qu'on peut les mettre en perspective l'un par rapport à l'autre?
OK. Bien, quand on prend l'indice des prix à la consommation, on mesure le niveau des prix à un moment donné. Donc, c'est quoi les prix moyens aujourd'hui? Puis, quand on les mesure ensuite, un an plus tard, les prix, bien, si les prix ont augmenté, c'est ce qu'on appelle de l'inflation.
OK.
Alors, si on a 4 % d'inflation, c'est que les prix ont augmenté en moyenne de 4 % depuis l'année passée.
Parce que c'est souvent...
On mesure toujours sur un an, en fait.
Oui. Et l'inflation, on dirait qu'on utilise beaucoup cette référence-là. Je prends un exemple pour... quand on veut rehausser les masses salariales, on utilise l'inflation comme est-ce que c'est la bonne mesure, parce que on sait que l'inflation c'est sur les prix à la consommation, mais il y a les taxes, il y a l'impôt, ainsi de suite. Est-ce que ça tient compte de ça, l'inflation?
Oui, l'indice des prix à la consommation tient compte de ça. En fait, on mesure les prix au marché, c'est-à-dire les prix de vente qui comprennent les taxes.
OK.
Et puis d'ailleurs, quand les gouvernements montent la TPS, par exemple, ou la TVQ, ça fait monter le taux d'inflation.
Ah, OK.
Sur le coup, en tout cas, là, pendant un petit moment. Mais donc, l'inflation, c'est que les prix augmentent. La déflation, c'est que les prix diminuent. Et ça, c'est un phénomène qui est pas mal plus rare. C'est arrivé beaucoup dans les années 30. Les prix ont baissé de 15-20% peut-être à cette époque-là. Et c'est arrivé une fois au Canada au début des années 50. Sinon, la déflation, on peut voir ça d'un mois à l'autre, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Non, c'est
mais,
ça.
Mais une déflation importante, là, plus que 2 % mettons, sur un an complet, on n'a pas vu ça au Canada depuis plus que 50 ans.
Et est-ce qu'il y a des risques à une déflation?
Ben oui, mais il faudrait que la déflation soit très forte.
OK.
En fait, le problème, c'est que quand vous achetez une maison, par exemple, c'est un actif pour vous. Puis, si les prix baissent, s'il y a de la déflation, la valeur de votre maison va sans doute baisser. Mais le problème, c'est que votre hypothèque, elle baissera pas.
Ben non, mais c'est justement, c'est pour ça que je posais la question, parce que dans le cas d'une maison, personne voudrait d'une déflation.
Oui, ben en fait, si les prix dans l'économie baissent de 10 % par année, y compris le prix de votre maison, ben votre maison qui valait 250 000, puis vous avez une hypothèque de 200 000 dessus,
ouais.
Au bout de quelques années, votre maison vaut juste 150 000, mais vous avez encore 180 000 d'hypothèque dessus.
Ça
c'est pas bien le fun. Et puis, en fait, ça amène des gens à déclarer faillite parce que leurs dettes sont plus grandes que la valeur de leurs actifs, puis ça peut être problématique. Mais 1% ou 2% de déflation dans une année, c'est pas
énorme.
C'est pas grave.
Et justement, parlant d'hypothèque, tout ça, il y a un autre beau mot aussi qu'on voit souvent, le taux directeur. Ou les taux directeurs, on entend souvent que la Banque du Canada rehausse, augmente ou diminue, c'est-à-dire le taux directeur. Quel est le taux? Qu'est-ce que ça veut dire sur le taux directeur?
OK, le taux directeur, c'est une sorte de taux guide que la Banque du Canada utilise et pour influencer les autres taux d'intérêt dans l'économie. En général, quand la Banque du Canada monte le taux directeur, les banques vont monter leur taux d'intérêt. Il y a toute une chaîne là d'événements qui se produit quand on augmente le taux directeur, mais très techniquement, le taux directeur, c'est un taux d'intérêt pas très important. C'est le taux d'intérêt auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles pour des très courtes périodes, pour 24 heures seulement. Mais ça a un impact sur les autres taux d'intérêt dans l'économie, puis c'est pour ça que c'est important.
Et pourquoi on voit souvent ces stratégies-là de qu'on annonce soit des hausses ou des baisses par rapport justement à la monnaie, puis à la santé de l'économie d'un pays. Pourquoi le taux directeur est aussi important puis quand on parle de récession, justement, on voit que c'est des leviers là, qui peuvent être utilisés?
Oui. Bien, quand on baisse le taux directeur, normalement, les banques suivent en baissant leur propre taux d'intérêt. Puis quand les taux d'intérêt sont plus bas, bien, les gens sont prêts à emprunter plus, à demander du crédit à la consommation pour s'acheter des voitures, des meubles, des flat screens, etc. Puis les entreprises sont prêtes aussi à emprunter pour construire une usine. Ça coûte moins cher, hein, et puis c'est plus profitable. Et puis donc, les taux d'intérêt plus bas, ça devrait conduire à une expansion du PIB, normalement, une augmentation du PIB.
Donc, à une inflation.
Et le problème, c'est que quand les taux d'intérêt sont plus bas, bien, les gens veulent emprunter plus. Puis quand les gens empruntent plus, les banques prêtent plus. Puis quand les banques prêtent, elles créent de la monnaie en même temps.
Okay.
Et puis donc, il y a plus de monnaie. Puis quand il y a plus de monnaie dans l'économie, ben après un moment, ben, les prix vont se mettre à monter.
C'est ça.
Et donc la Banque du Canada, il faut qu'elle garde le pied sur le brake, puis sur la pédale de gaz, puis qu'elle passe d'un à l'autre. Là, donc, elle peut accélérer un peu la croissance en baissant le taux directeur. Mais il faut faire attention parce que ça peut alimenter l'inflation. Puis des fois, on fait monter le taux directeur au contraire pour ralentir la croissance de la monnaie, ralentir la croissance de l'économie pour qu'il y ait moins d'inflation. On joue là-dessus.
Et aujourd'hui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, on est quand même aux prises avec un endettement au niveau de la population qui était à des niveaux records. On sait que les gens se sont engagés aussi d'un point de vue avec des hypothèques avec des montants assez importants, avec des durées aussi beaucoup plus longues, malgré qu'on a ramené ça là, dans les derniers mois, là, le plafond en termes de d'années qu'on pouvait hypothéquer une propriété. Mais parce que là, les gens en discutent dans la rue, se disent ben écoutez, un taux directeur, on pourra pas connaître ce qu'on a connu au tournant des années 80 où là, on avait eu une crise à 18 ou 20%. Est-ce que les économistes ou les banques comme aujourd'hui sont coincés un peu puis pourront pas avoir cette latitude-là qu'ils ont eue peut-être par le passé?
Bien, ce qui est vraiment important, c'est de maintenir l'inflation faible. Quand on avait des taux d'intérêt hypothécaire à 18, 20, 21%, l'inflation était à 12% à peu près.
OK, donc c'est intimement lié à ça.
C'est intimement lié à ça. Et puis, ben en fait, il n'y a personne qui va placer de l'argent en banque à 1% d'intérêt si il y a 12% d'inflation. Les gens vont vouloir au moins garder leur pouvoir d'achat. Hein. Et puis donc, tant que l'inflation reste faible, on peut avoir des taux d'intérêt qui sont faibles. Et puis ça, ben c'est pour ça que c'est si important que la Banque du Canada surveille l'inflation puis s'assure que ben, même si ça maintient les taux d'intérêt bien faibles puis que ça pour stimuler l'économie. Il faut que ça change, faut pas que ça crée de l'inflation okay. En même temps. On va pas retourner à ce qu'on a déjà connu.
Mais c'est parce que là, la prochaine vague, si les taux se mettraient à monter, là on aurait beaucoup, beaucoup de problèmes, là, parce que là, c'est...
Non, c'est sûr, ça fait des années que les taux d'intérêt sont bien faibles. D'ailleurs, il y a une sorte de contradiction, là, dans ce que la Banque du Canada fait. Je me souviens, le gouverneur de la Banque du Canada, il y a quelques mois, a fait une sortie, puis ça avait été repris par les journalistes, puis il disait, les gens sont trop endettés. Il faut arrêter de s'endetter comme ça. Oui, mais la Banque du Canada maintient le taux directeur à 1%, ce qui fait que les banques, taux d'intérêt très faible, ben c'est pas vraiment étonnant que les gens soient endettés quand les taux d'intérêt sont très faibles. Ça coûte pas cher à emprunter, là. En fait, il y a une sorte de taux d'intérêt qu'on devrait maintenir en moyenne. Puis le taux directeur normal au Canada, c'est à peu près 4%.
Okay.
Mais, on est à 1%. Fait que là, on a des taux d'intérêt trop faibles. C'est pour ça, entre autres, que les gens s'endettent.
Mais moi, personnellement, ça me fatigue pas parce que, bon, j'ai organisé mes finances en conséquence, mais je trouve ça un peu tannant de voir justement cette fluctuation-là des taux d'intérêt, là, puis toute cette négociation. Je trouve qu'encore là, c'est un peu comme le prix de l'essence. Là, ça serait le fun à un moment donné d'avoir des tendances plus à long terme parce que on voit ces fluctuations-là. Et des fois, c'est des quarts de points, mais ça fait une déflagration. Là, on voit ça, là. Ça s'est percuté dans chacune des banques et des caisses.
Ouais, ben il y a des gens qui suggèrent que la politique monétaire soit beaucoup moins active, puis qu'on maintienne plutôt le cap avec des taux d'intérêt qui bougent pas beaucoup.
Ouais.
Et puis qu'on laisse qu'on surveille l'inflation tout simplement là, puis qu'on laisse l'économie s'ajuster toute seule. C'est pas ce qu'on fait au Canada. La Banque du Canada est très active puis dans la politique monétaire, puis donc elle fait monter puis baisser les taux d'intérêt. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ici, il y aurait un gros débat à avoir, là. Mais une chose est certaine, vous pouvez vous protéger contre les fluctuations de taux, hein. Vous pouvez placer votre argent à la banque à un taux fixe pour 5 ans, ou même plus, hein. Vous pouvez vous acheter des obligations de 10 ans, 15 ans ou 20 ans, si vous voulez. Puis de la même façon, vous pouvez emprunter à taux fixe à la banque aussi, hein.
Oui, définitivement.
Mais ça va vous coûter plus cher parce que vous vous protégez, c'est comme prendre l'assurance un peu.
Puis moi, je vais vous avouer, là, j'ai fait, je suis rendu à ma 5e propriété, puis bien des fois, je vois même que le conseiller est un peu désarmé par rapport à ça. On dirait que on les appelle des conseillers, mais ils sont difficilement capables de nous conseiller parce que il y a tellement de fluctuations dans le milieu, puis en même temps, c'est tellement stable. Depuis 10 ans, ben les taux sont très bas. On est à 2-3%, donc au niveau des hypothèques. En même temps, on se dit, bon, justement, assurer cette protection-là sur 10-15 ans à 5%, c'est, en tout cas, dans les 10 dernières années, c'était peut-être un peu de l'argent garoché par les fenêtres.
Oui, bien, écoutez, moi, ça fait 22 ans, presque 23 ans que j'ai des hypothèques. Bien évidemment, tu revends, tu rachètes, tu réhypothèques, bon, etc. Là. Et puis, on a toujours pris des hypothèques à taux fixe sur un an.
OK.
Et puis, si vous faites ça en moyenne sur 15 ans ou 20 ans, c'est comme ça que vous allez trouver le plus. Maintenant, vous prenez la chance comme ça que de payer plus une année. Il faut être capable de...
D'absorber.
Faut pas que l'assurance, faut pas que l'hypothèque, ça soit 70% de votre impôt, là. C'est ça, vous êtes mieux de vous protéger. Mais si vous êtes capable d'endurer des fluctuations, vous êtes mieux de faire ça. Parce qu'en moyenne, ça va vous coûter moins cher.
Ben justement, parlant de, puis ça, c'est dans les mots que vous avez suggérés. Bon, le mot richesse, le mot revenu, parce que justement, pour assurer cette cadence-là et puis vivre toutes ces périodes d'inflation, de déflation ou d'indice de prix à la consommation qui augmente, quand on parle de richesse et de revenu, et au Québec, on le sait, je sais pas si on a une difficulté avec la richesse, mais on dirait qu'on a un rapport malsain avec l'argent au Québec. Comment on peut définir la richesse?
OK, bien, je pense que c'est une question importante parce que les gens confondent allègrement richesse et revenu, puis c'est pas du tout la même chose. Le revenu, c'est le PIB, par exemple. Le PIB d'un pays, c'est le revenu annuel d'un pays. C'est un montant qu'on reçoit par période de temps. Alors, votre revenu, par exemple, c'est votre salaire par mois ou par année, par paye. Ça peut être les rentes que vous recevez, les intérêts que vous recevez. Tout ça, c'est des montants que vous recevez à tous les mois, tous les ans. La richesse, c'est autre chose. C'est ce que vous possédez. C'est la différence entre la valeur de ce que vous possédez et vos dettes. C'est ce qu'on appelle en langage comptable l'actif moins le passif de quelqu'un. Et puis, par exemple, pour vous, votre richesse, ça serait la valeur de votre maison, plus la valeur de votre voiture, plus vos placements bancaires, plus vos actions, plus vos REER, etc. Ça, c'est ce que vous possédez, moins vos dettes. Puis vos dettes, ben, c'est votre hypothèque, puis les montants sur vos cartes de crédit, sur votre marge de crédit, etc., etc. Et donc, c'est pas un montant par période de temps, là. C'est un montant à un moment donné, tout simplement, là. Et quand on parle de richesse, on parle pas du tout du montant qu'on reçoit à chaque mois.
Ouais, on peut comprendre que ça peut être intimement lié, mais ça veut pas dire. Donc, on pourrait être, avoir une certaine richesse sans nécessairement avoir des revenus qui dépassent les 100 000 $ par année.
Ah, tout à fait. Si vous avez hérité d'une maison qui vaut 1 million $, par exemple, puis il n'y a pas d'hypothèque dessus. Vous êtes riche, mais vous gagnez peut-être 20 000 $ par année. Vous n'avez pas un gros revenu. Et à l'inverse, vous pouvez gagner 1 million $ par année, mais si vous le dépensez tout, et que vous en mettez pas à la banque, vous êtes pas riche.
Puis j'imagine les taux, l'imposition, les taxes qu'on paie, justement, tout ça, ça affecte directement aussi la richesse des gens.
Ah, tout à fait. On peut pas accumuler autant de richesses quand le gouvernement nous en laisse moins, disons.
mais quand on dit justement créer la richesse, puis c'est sûr qu'on peut la regarder collectivement, mais justement, moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup parce que j'ai pas l'impression, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais quand je regarde la jeunesse d'aujourd'hui ou les gens qui consomment beaucoup, instantanément, quand ils ont des revenus, qui les dépensent peut-être, est-ce qu'on, si on se compare à travers les époques, et là, je veux pas qu'on remonte au début des temps modernes, là, mais est-ce qu'on crée de la richesse? On a l'impression, parce qu'on a l'impression que nos parents étaient beaucoup plus riches. Puis, est-ce que c'est une fausse perception?
Ah oui, nos parents étaient plus pauvres que nous, dans le sens où il y avait moins de... La différence entre l'actif et le passif était plus petit. Okay. Il y avait des plus petits revenus aussi. Mais par contre, on est moins épargnant que nos parents pouvaient l'être. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a plusieurs raisons sans doute là-dessus. Hein. Pour ça... si vous avez acheté une maison il y a 20 ans, vous sentez peut-être pas le besoin d'épargner beaucoup parce que votre maison, vous l'aviez acheté 150 000, puis elle vaut 425 000 maintenant.
Ouais.
Fait que, dans le fond, de la richesse, vous en avez maintenant. Là. Ça s'est produit tout seul. Là. Fait que là, vous sacrifiez de la consommation aujourd'hui pour épargner, vous sentez moins le besoin peut-être de faire ça.
Okay.
Et puis, ça, c'est un facteur qui joue sans aucun doute. Là. D'ailleurs, il y a un truc vraiment imbécile que beaucoup de gens font, là. C'est de regarder tout simplement le niveau d'endettement des ménages puis dire on est surendetté. Ben, l'endettement, ça veut rien dire. Je suis certain, moi, que Bill Gates est plus endetté que moi. Quand il veut s'acheter une nouvelle maison, pourquoi il irait nécessairement vendre ses actions? Pourquoi il n'emprunte pas à la place 2 millions de dollars pour s'acheter une maison? Il peut se le permettre. Fait que la dette, juste comme ça, ça n'a pas vraiment d'importance, là. Si la dette de quelqu'un passe de 10 000 à 100 000, mais que ses actifs passent de 100 000 à 1 million pendant ce temps-là, ben, cette personne est bien mieux, là. Même si elle est plus endettée, là. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas la dette qu'il faut regarder. C'est vraiment la différence entre l'actif puis la dette des gens qu'il faut regarder. Faut savoir si quelqu'un dans le pétrin ou est dans une bonne situation.
Mais on sait que culturellement aussi, comme vous dites, nos parents étaient peut-être plus épargnants, donc ils essaient de transmettre aussi ces valeurs-là. Aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde les jeunes, effectivement, ils ont un profil un peu différent. Ils vont s'endetter beaucoup plus, mais ils vont créer beaucoup plus de richesses là, pour leur avenir en justement s'assurant peut-être. Parce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes achètent des maisons très tôt dans leur vie.
Écoutez, je pourrais même vous dire, j'enseigne à HEC, puis j'ai... Je ne dirais pas que c'est la majorité des étudiants, mais une bonne proportion de mes étudiants ont une voiture.
Oui.
Et puis, ils voient beaucoup moins les études comme une période où on réduit notre consommation puis on est frugal. Là, les autres, ils veulent consommer tout de suite. Ça, c'est un changement vraiment majeur, un changement culturel majeur. Mais il faut être capable de gérer ça comme il faut. Hein. Mais vous savez, c'est pas si grave d'être endetté si on... comme par exemple, si on s'endette de 50 000 $ pour faire un bac à HEC, c'est pas une mauvaise décision parce que au cours de notre vie, on va le rembourser notre 50 000 avec des revenus plus élevés. Hein. Donc la dette en tant que telle, c'est pas quelque chose qui est si important. Il faut se demander pourquoi la dette a été acquise et puis c'est quoi notre capacité de rembourser. Et puis surtout, quand on s'est endetté, c'est pour acquérir quelque chose. Si ce qu'on a fait, c'est des voyages, mais ça n'a pas le même impact que si on s'est endetté pour étudier, par exemple.
Donc, puis le proverbe qui dit « c'est avec de l'argent qu'on crée de l'argent », c'est toujours vrai.
Ah, c'est toujours vrai, bien sûr, oui, tout à fait.
Puis on va terminer un peu là-dessus parce que, bon, j'apprécie beaucoup votre temps, mais on est quand même aussi vendredi soir, là, et je voudrais qu'on parle du taux de chômage. On en entend beaucoup parler, puis justement, on vient de sortir d'une campagne électorale, puis bon, le taux de chômage chez les personnes, là, proches de la retraite, tout ça, on en entend parler beaucoup, beaucoup. Maintenant, on fragmente justement le taux de chômage, on y va par classe d'âge, là. Qu'est-ce qu'on entend par taux de chômage, puis pourquoi on se retrouve qu'il y a des régions comme ça là, où il y a de grandes disparités, si on prend l'exemple du Canada?
OK. Bon, mais les taux de chômage, probablement, c'est pas les... C'est le nombre de chômeurs divisé par ce qu'on appelle la population active. Puis la population active, c'est les chômeurs puis les gens qui ont un emploi. Et puis donc, si on a, par exemple, 8 % de chômage, c'est qu'on a pris 1 million de chômeurs qu'on a, puis on a divisé par 1 million de chômeurs plus les gens qui avaient un emploi, puis ça nous a donné 8%. Et donc, le taux de chômage, c'est pas la proportion des gens qui reçoivent l'assurance chômage. Un chômeur, c'est pas quelqu'un qui reçoit l'assurance chômage. C'est quelqu'un qui remplit deux conditions, ou en fait trois conditions. Premièrement, il n'y a pas d'emploi. Puis deuxièmement, il veut un emploi. Puis troisièmement, il veut tellement un emploi qu'il en cherche un.
OK.
Donc, un chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi puis qui cherche un emploi. Et puis donc, que vous qualifiez ou pas pour l'assurance chômage, si vous n'avez pas d'emploi, vous en cherchez un, vous êtes un chômeur.
Mais à ce moment-là, ça veut donc dire qu'on on s'exclut de beaucoup de personnes?
Oui, tout à fait. Les gens, d'ailleurs, qui arrêtent, c'est une bonne question, les gens qui sont découragés, par exemple.
Oui.
Si vous habitez dans une région où il y a 25% de chômage, par exemple, mais vous avez, il n'a pas de job, ça donne rien de chercher.
Ben oui, c'est ça.
Vous arrêtez de chercher, ben vous sortez des statistiques automatiquement, puis le taux de chômage baisse dans ce temps-là. Alors, le taux de chômage, c'est pas une mesure qui est très fiable au niveau de l'activité économique. Mais tiens, comme par exemple, le mois passé, aux États-Unis, on a créé 244 000 nouveaux emplois. Et puis le taux de chômage est monté de 8,8 à 9%.
Ouais, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que dans le temps des promesses électorales, puis même il y a des partis politiques par rapport à leur accomplissement sous leur règne, ils vont faire référence justement à cette diminution-là, souvent là, parce qu'ils veulent mousser un peu leur gouvernement. Donc ils vont dire on a baissé le taux de chômage. Mais ce que vous dites, c'est plus ou moins un indicateur qui nous confirme qu'on a vraiment affaire à un gouvernement solide.
Ouais, ben en fait, si on veut savoir ce qui arrive vraiment dans le marché du travail, il faut regarder le taux de chômage, mais aussi le taux d'activité, et puis le taux d'emploi. Il faut regarder plusieurs variables en même temps.
Okay.
Et puis donc, c'est tout à fait possible que ça aille de plus en plus mal et que le taux de chômage se mette à baisser parce que ça va tellement mal que les gens arrêtent de chercher un emploi, puis donc ils sont plus chômeurs techniquement. Puis c'est possible aussi que quand l'économie va beaucoup mieux, que plein de gens qui étaient inactifs, qui cherchaient pas un emploi, ces gens-là se mettent à chercher un emploi, puis donc ils passent de inactif à chômeur. Puis chômage, le taux de chômage met à monter dans ce temps-là. Donc, il faut faire attention avec les données, là, et surtout les données d'un mois à l'autre, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose.
Mm-hmm. Moi, j'en ai un mot. La masse monétaire.
Oh, la masse monétaire. Mm. La masse monétaire, c'est la quantité de monnaie qu'il y a dans l'économie. Il faut comprendre que la monnaie dans l'économie canadienne et dans toutes les économies développées, c'est deux choses. C'est des billets de banque puis des pièces de monnaie. Puis ça, c'est contrôlé par la Banque du Canada. C'est elle qui les émet. Mais en fait, elle émet les billets de banque. Les pièces de monnaie sont émises par la monnaie royale canadienne. Mais ça, c'est un petit pourcentage de la monnaie. Le gros pourcentage de la monnaie, la grosse majorité de la monnaie, c'est l'argent que vous avez dans des dépôts à la banque. Pardon. À titre d'exemple, là, il y a plusieurs mesures de la monnaie qui portent des noms aussi cute que M1, M2, M3, M2+, M2++, M3++. Il y a une mesure de monnaie qui est assez petite, qu'on appelle M1, et puis à peu près 75% de la masse monétaire M1, c'est des dépôts à la banque. Puis 25%, c'est des billets de banque puis des pièces de monnaie. Et comme il y a plusieurs types de dépôts qui sont plus ou moins liquides, ben il y a plusieurs mesures de la monnaie. Et puis, si vous me demandez combien de monnaie il y a dans l'économie canadienne, je vous répondrai, j'en ai pas la moindre idée.
Et il y a beaucoup de gens qui remettent en question, justement, parce qu'on a l'impression qu'artificiellement, il y aurait de l'argent qui se crée au Canada. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ah oui, ben d'ailleurs, quand la Banque du Canada a fait, et la Réserve fédérale aussi aux États-Unis, ont fait ce qu'on a appelé de l'assouplissement monétaire dans les deux dernières années, du quantitative easing, qu'ils ont fait, c'est créer de la monnaie, en fait. Puis les banques centrales peuvent en créer autant qu'elles veulent. Maintenant, il faut faire vraiment attention parce que quand on se met à en créer trop, il arrive ce qui est arrivé au Zimbabwe dans les dernières années, c'est-à-dire des taux d'inflation dans les millions de pourcents par année. C'est ce qu'on appelle de l'hyperinflation. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ça, là. Et puis, en fait, il y a des gens qui remettent ça en question, vous avez raison. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait pas laisser ce pouvoir-là des banques centrales et qu'on devrait plutôt revenir à ce qu'on faisait avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une quantité de monnaie qui était fixe, qui était reliée à la quantité d'or que les banques centrales possédaient. C'est ce qu'on appelle l'étalon or, ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, il y a des gens qui pensent qu'on devrait revenir à ça. Je vous dirais que c'est minoritaire chez les économistes, là. Mais écoutez, l'inflation, c'est un phénomène qui n'existait pas avant le 20e siècle.
On l'a créé de toutes pièces.
Eh oui, ça a été créé dès qu'on a donné le pouvoir aux banques centrales de créer de la monnaie.
Oui. Puis, parce que eux, à quelque part, ils rendent des comptes à peu près personne.
Effectivement. Maintenant, on a un système qui n'est pas si mauvais au Canada, dans la mesure où on a donné un objectif très simple à la Banque centrale, à la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation entre 1 et 3 %.
OK.
Puis, ils réussissent assez bien. Et puis, c'est la seule chose qu'on leur demande de faire. Maintenant, en fait, on pourrait avoir un débat là-dessus. Hein. C'est quoi le taux d'inflation idéal? Il y a des gens qui pensent, puis moi j'en suis, là, que le taux d'inflation idéal, c'est zéro.
OK.
Si on avait 0 % d'inflation, ça serait encore mieux. Quand tu as de l'inflation, c'est que la valeur de la monnaie est en train de diminuer. Hein.
Ben
qu'est-ce
oui.
Que vous diriez, qu'est-ce que vous diriez si le maître rapetissait de 1 ou 2 ou 3 % par année?
C'est vrai.
C'est pas tellement pratique.
Non, hein. Ça fait pas trop de sens.
Ben, c'est exactement ce qui arrive quand l'inflation, le dollar, il est en train de ratisser de 1, 2 ou 3 % par année. Puis, c'est quoi la vitesse idéale de rétrécissement du dollar? Ben, c'est zéro.
Oui,
si on avait 0 % d'inflation, tout le monde serait mieux. Mais, ça fait 10 ans au moins qu'on discute de ça à Ottawa, à la Banque du Canada et au ministère des Finances, qu'on se demande est-ce qu'on devrait viser plutôt 0 % d'inflation.
Parce que nous, en tant que, justement, on a l'impression qu'on court un peu après notre queue, parce que l'inflation est de 2 % exemple en moyenne, ou 2 % et demi par année, puis nos employeurs nous augmentent là, du même taux. Fait que, on a l'impression qu'on est, on n'est pas vraiment gagnant. On a l'impression qu'on annule l'inflation par nos revenus, par la hausse de nos revenus qui est intimement liée au même pourcentage.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, quand il y avait 12 % d'inflation, les revenus des gens augmentaient de 12 ou 14 % par année. Puis, que maintenant, on a 2 % d'inflation, puis les revenus des gens augmentent de 2-3 % par année.
Bon.
C'est que c'est, l'inflation, quand t'es pas inattendu, quand on s'attend à 2 % d'inflation, puis qu'il y a 2 % d'inflation, ben, en général, on négocie des augmentations de salaire pour annuler ça, si on veut.
Ben, c'est ça.
Mais le problème, c'est plutôt que quand t'as de l'inflation, ben, ça entraîne toutes sortes de coûts. Hein. Tiens, comme par exemple, au restaurant, vous êtes obligé de refaire vos menus. Parce que vous allez augmenter les prix régulièrement. Les catalogues, vous êtes obligé de les refaire. Ça, c'est juste un exemple de coûts. Il y a plein d'autres coûts qui font que les gens entreprennent toutes sortes d'actions inutiles quand tu as de l'inflation. Fait que l'idéal, c'est de ne pas avoir d'inflation pendant tout.
Ah, c'est vrai que ça serait bien. Merci beaucoup, M. Belzile.
Mais ça me fait un grand plaisir.
Je pense que vous avez bien éclairé les auditeurs. Je pense qu'on a parcouru là des termes qu'on entend assez souvent dans nos médias, le vocabulaire économique là, qui des fois est un jargon là très complexe pour les gens. Puis je pense que vous avez bien exprimé tout ce soir. Puis si les gens veulent avoir des précisions, ben ils ont juste à communiquer avec nous à info@connaitrelasuite.com et on va vous souhaiter une belle soirée.
Et merci beaucoup. Puis si vous voulez qu'on reprenne l'exercice avec d'autres termes, n'importe quel.
Ah oui, oui.
Je suis ouvert à m'inviter.
Ben, merci beaucoup. Et puis, on se tient une prochaine.
OK, parfait.
Merci, okay, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Très chic type, ce monsieur Belzile, qu'on a rencontré au Réseau Liberté Québec.
Ouais.
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est passé inaperçu, mais il se dit un économiste libertarien. C'est intéressant de voir ça. Que même au niveau de l'économie, il y a des gens qui ont des façons de penser, comme on l'a vu là, par rapport à l'inflation, ne pas en avoir, de maintenir ça à zéro. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on court beaucoup après un rythme effréné de situations où on essaie de compenser par cette l'inflation par des revenus plus élevés, puis des taux directeurs qui varient. Puis, en tout cas, je sais pas comment tu te sens toi là-dedans, mais moi, je me sens un peu pris. Dans l'économie d'aujourd'hui, parce qu'on dirait, puis on l'a vu dans les dernières années, surtout aux États-Unis, on dirait qu'eux sont intimement liés à toutes ces décisions-là économiques.
Oui. J'ai déjà eu une entreprise où j'étais patron, puis dans la convention collective, il y avait une clause inflation.
Ah ouais.
Ouais. Si l'inflation dépassait un certain seuil, là, il y avait un calcul à faire, c'est-à-dire que les taux d'augmentation qui étaient prévus dans la convention collective, là, si l'inflation était devenue trop haute, ben, les employés disaient, je perds mon pouvoir d'achat, donc vous allez me donner une augmentation de salaire.
Ah, et c'était négocié, ça.
Ouais, donc là, on était en train de, moi, j'étais en train de m'ostiner avec un actuaire qu'on avait engagé pour dire, dans le fond, sa clause-là remontait à 1977. Elle n'avait jamais été implantée, appliquée, là.
OK.
Donc là, ils ont décidé, là, le syndicat arrive, maintenant la clause est applicable à cause des statistiques. Donc il a fallu faire compter toutes les statistiques des derniers mois pour voir si la clause était applicable. Et quand j'ai quitté l'entreprise, c'est encore en arbitrage.
Ah oui.
Et pour voir là, si c'était vraiment applicable. Mais tu sais, dans un sens, ils ont raison, mais si le coût de la vie est rendu élevé, probablement que les coûts de l'entreprise aussi.
Ben aussi avaient, c'est sûr.
Donc là, t'as une entreprise qui a déjà plus de coûts et qui est obligée d'augmenter les salaires de plus.
Mais c'est pour ça que je dis qu'on est un peu tout pris là-dedans. Hein, puis c'est autant les entreprises. Puis imagine-toi les petites entreprises, là, ceux qui ont 2 ou 3 employés, ou c'est des entreprises, des fois, qui sont menées là, à bout de main. Là, puis c'est difficile de répondre à toutes ces difficultés-là que peut engendrer l'économie. Puis une variation des taux d'intérêt, déjà là, quand t'as une grande dette envers les banques, les institutions, il y en a qui font des... Écoute, quand tu démarres une entreprise, beaucoup d'investissements des fois à faire, puis il y en a qui... Puis ça freine des entrepreneurs. Moi, je pense qu'au Québec, puis d'ailleurs, on était supposé d'en parler ce soir, dans l'entrepreneurship et tout ça, là, mais...
On va en parler.
On va en parler. Mm-hmm. C'est la semaine prochaine, là, on s'organise pour ça.
Ce soir.
Ce soir? Ah oui, en plus? Ah, OK, là, je suis en train de découvrir un peu ce que tu nous as concocté. On va faire une petite pause. De l'autre côté, on va retrouver Philippe David du blog Le Minarchiste québécois. Et on va s'entretenir de monnaie privée. Donc, on est vraiment dans une thématique ce soir.
L'argent,
l'économique. L'argent. Malgré que là, au Québec, on est pris avec une vague là, anti-argent, donc les oranges. Eux, ils veulent plutôt la distribuer, mais pas regarder comment est-ce qu'elle va rentrer dans les coffres de l'État. Mais bref, on retrouve Philippe David de l'autre côté. Vous écoutez, évidemment, connaître la suite sur les ondes du XM156.
Killing.
On est de retour à l'émission Connaître la suite. En pleine forme, en plus. Hey, mon ami Danny, qui fait pas de fièvre.
Ouais.
Ça a été une grosse semaine pour toi. Ça avait commencé vendredi passé, en plus.
Ouais. C'est samedi matin que j'ai réalisé que ça avait commencé jeudi.
Ah ouais? OK.
Par d'autres signes.
OK.
Voilà. Hey, juste avant de parler avec notre invité, là, juste faire réaliser, il y a aussi dans la convention collective qui a été signée l'an passé avec le gouvernement, avec les fonctionnaires, il y a une clause croissance économique dans la convention collective. Donc, si la croissance économique est meilleure que les prédictions du gouvernement... donc, on sait que les gouvernements sont pourris dans les prédictions, donc ça peut arriver. Ça va faire augmenter les augmentations salariales des fonctionnaires. Donc, ça veut dire que si vous, dans le privé, vous travaillez plus fort, les fonctionnaires vont être payés plus cher. C'est le fun en tabarouette.
Ouais, hein? C'est belle fun.
S'il avait été pro-peuple, il aurait dit, si la croissance économique est meilleure, on va annuler la deuxième hausse de TPS, de TVQ. Ça, ça aurait pas été une bonne idée. Mais non, on donne ça aux syndicats. Donc, encore les privilégiés. Pas le bon métier.
Je te dis.
Ah.
Hey, Danny, le 25 mars, tu nous présentais ta tweet chronique et tu nous introduisais les fonctions régaliennes.
Mm-hmm.
Et à l'intérieur de ta chronique, on se questionnait sur la monnaie privée. Et ça avait suscité un intérêt auprès de notre auditoire, puis on avait reçu deux courriels en particulier d'individus qui ont dit « Écoutez, vous avez parlé de ça », puis on avait commencé à effleurer le sujet, puis on s'est dit « Ah, c'est vraiment compliqué ». Et là, ce soir, ben, on a le plaisir d'accueillir Philippe David, qui est derrière un blog qui est très intéressant. Mm. D'ailleurs, on vous donnera l'adresse là pour consulter son blog. Donc, il se trouve être le Minarchiste québécois. Bonjour Philippe.
Oui, bonsoir, Steve.
Ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Oui, et je tiens à dire qu'on a rencontré Philippe, d'ailleurs, et là, on n'arrête pas de le dire, mais c'était vraiment la place to be, l'événement RLQ le 16 avril. Mm. Donc, Philippe, qui s'était mérité un DVD, en plus, lors du passage de Joanne.
Oui, effectivement.
Et toi, quand justement on avait parlé des fonctions régaliennes et on avait introduit un peu là, la monnaie privée, tu t'es dit, ben moi, je contacte les gars, puis j'en regarde avec eux autres si on peut pas monter quelque chose. Parce que effectivement, c'est un sujet assez complexe.
Un petit peu, oui. Effectivement, c'est parce que quand on parle de fonctions régaliennes, vous incluez comme fonction régalienne de produire la monnaie. Je vous dirais qu'il y en a certains qui vous diraient que non, ce n'est pas nécessairement vrai que c'est une fonction régalienne. La monnaie peut parfaitement être produite par des entreprises privées plutôt que d'être produite par l'État.
Oui, effectivement. Parce que la première question qu'il faudrait se poser, c'est quoi la véritable nature de la monnaie? Hein? Je pense qu'il faut commencer par ça.
Ben ouais, il faut commencer un petit peu par essayer de comprendre comment on est venu qu'à utiliser une monnaie, puis comment est-ce que on a développé ça au juste à travers les âges, si on veut. Alors, évidemment, au départ, quand l'homme a voulu commencer à échanger, ils ont commencé tout simplement en échangeant une denrée pour un autre. C'est ce qu'on appelait le troc.
Oui, le bon vieux troc qui fonctionne encore aujourd'hui, hein?
Oui, dans certains cas, oui. Ouais. Dans certains cas, oui, il y en a encore un petit peu.
Ben, je dirais surtout si on veut s'astreindre là, de l'impôt québécois ou de les taxes, des fois, c'est le meilleur moyen de le faire. Échange de services contre d'autres services.
Oui, ben c'est ça. Des fois, oui, effectivement, là, si on veut s'économiser des impôts, le troc peut être facilement un avantage, ouais. Certains avantages. Mais malheureusement, quand on veut faire un commerce, le troc a un gros problème. C'est que, par exemple, si moi je produis, disons, des poulets, puis que mon voisin, je désire acheter des cornichons, ben là, moi, il faut que je trouve un producteur de cornichons qui veut des poulets. Alors, c'est ce qu'on appelle la coïncidence du besoin.
Ouais.
Oh boy, ouais.
Alors, malheureusement, c'est un petit peu difficile des fois de trouver justement quelqu'un qui a besoin de notre produit, qui est capable de nous offrir le produit dont on a besoin. Alors, c'est comme ça qu'on en est venu à développer un médium d'échange, si on veut, qui est la monnaie.
Oui, parce que la monnaie, ça a des grands avantages. Parce que là, tu parlais du poulet. Si je te donne juste deux cornichons, puis là, tu me dis, ben, je vais te donner la moitié d'un poulet. C'est pas évident, là, parce que de diviser tout ça, puis de la durabilité aussi, parce que là, de partir avec son poulet ou ses cornichons, là, c'est pas évident.
Ben, effectivement, essayer d'établir une correspondance entre les poulets et les cornichons, parce que justement, on compare des pommes et des oranges, comme on dit, là. C'est deux affaires qui sont totalement différentes, puis c'est comment tu établis la valeur d'un objet ou d'un autre de cette façon-là. Alors ça, effectivement, c'est ça qui nous a amené à développer quelque chose de qui peut servir d'intermédiaire. Alors pour trouver un intermédiaire, il fallait qu'on trouve quelque chose que tout le monde a besoin ou que tout le monde va accepter, que tout le monde auquel tout le monde accorde une certaine valeur. Puis je vous dirais qu'au départ, c'est pas un roi en quelque part ou un gouvernement quelconque qui a décidé du jour au lendemain, ben à partir de maintenant, on va utiliser l'or comme médium d'échange, puis qu'à partir de maintenant, on va frapper des pièces d'or, puis c'est ça que vous allez utiliser, puis c'est ça qui est ça.
Oui, parce que là, il faut comprendre, puis je sais pas, puis regarde, t'as fait ça tout à fait
bénévolement.
Oui, bénévolement, excuse, j'ai de la misère avec le mot, mais je sais pas si t'as regardé la création des monnaies par rapport justement à l'histoire, parce que j'imagine que c'est pas arrivé partout en même temps, là.
Non, ça a été une évolution, ça a été, même, il y a plusieurs choses qui ont été utilisées comme monnaie. Il y a des endroits où ils utilisaient des coquillages. Il y a des endroits qui utilisaient même dans les camps de prisonniers en Deuxième Guerre mondiale, ils utilisaient des cigarettes comme monnaie.
Ben oui.
Il y a eu toutes sortes de choses. Au Québec, ici, on a utilisé les fourrures, le tabac.
L'argent Canadian Tire.
L'argent Canadian Tire.
Ah, mais il était un temps. Moi, je me souviens au début des années 80. Écoute, l'argent Canadian Tire, tu pouvais la passer chez Rona. Tu pouvais la passer dans des stations de service. Moi-même, j'ai travaillé comme pompiste. On prenait l'argent Canadian Tire. On prenait l'argent des concurrents, même.
Ah, c'est sûr.
C'était aussi valable.
C'est aussi valable. C'est, je veux dire, si un commerçant veut accepter une monnaie différente pour les transactions, ça devrait normalement être libre à lui de le faire. Alors, c'est là que, justement, on vient au concept où on pourrait avoir plusieurs monnaies qui se font compétition même marché. Au fil des années, par contre, je dirais qu'il y a certaines monnaies qui sont développées, qui ont eu
le dessus, là.
Le dessus sur le reste des autres, notamment l'or, l'argent. Ces deux métaux-là ont acquis une faveur, une importance particulière sur le marché en tant que monnaie. Surtout parce que, justement, ces deux métaux-là ont des caractéristiques spéciales qui en font des excellentes monnaies. D'abord, ils sont facilement divisibles. On peut facilement les couper, les transformer pour en faire des pièces de monnaie qui peuvent être facilement être changées. D'ailleurs, même il y a eu un certain temps où ce que il y avait des pièces de monnaie qui appelaient les pieces of eight. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression là.
Non.
Mais c'était une pièce en or qui pouvait être qui était estampillé de façon à pouvoir être divisé en 8 différents morceaux.
Ah ouais.
Puis quand tu brisais la pièce de monnaie dans ces 8 morceaux là, ben le morceau de pièce de monnaie, ça s'appelait une bit.
Ah.
Alors si vous avez déjà entendu la petite ritournelle qui dit shave and a haircut two bits. Alors, c'est de ça que ça vient.
Ah, OK.
Alors, c'est juste pour montrer l'idée de la divisibilité. C'est que même à l'intérieur d'une même pièce de monnaie, vous pouviez diviser la pièce de monnaie en 8 différents morceaux qui en faisait une plus petite dénomination.
OK, elle cassait carrément, là.
Carrément, là. Oui, elle cassait carrément la pièce. Tu pouvais la casser en 8 différents morceaux puis payer juste avec un morceau de la pièce.
Ah, c'est pratique, ça.
Vous aviez aussi la durabilité. L'or, c'est quasi éternel. On a encore tout l'or qui a été miné depuis qu'on a commencé à miner l'or existe encore aujourd'hui.
Mm-hmm. Puis alors, on a vu que l'or, c'est encore un refuge, d'ailleurs, aujourd'hui.
C'est d'ailleurs beaucoup un refuge. On le voit d'ailleurs avec la montée du prix de l'or en flèche depuis quelques années. Justement parce que beaucoup de monde craignent l'inflation dernièrement, surtout là. Alors, il y a beaucoup de monde qui s'en vont justement vers l'or comme valeur refuge, aussi vers l'argent, qui est considéré comme l'or des pauvres.
Ben oui.
Alors, effectivement, ces deux valeurs-là sont encore considérées comme des valeurs refuge, mais même s'ils sont plus nécessairement utilisés comme monnaie. Alors, donc, la durabilité, c'est une des caractéristiques d'une bonne monnaie. Une autre caractéristique, c'est d'avoir une grande valeur par rapport au poids.
Oui, parce que c'est ça, dans tes exemples, là, tu donnais le 1/20 d'or pour justement le dollar par rapport à justement au livre sterling versus le franc qui était à 1/100 d'once d'or. Donc, on a quand même des bons écarts, là.
Ouais, ben effectivement, c'est parce que du départ, quand différents types de monnaie, si on veut, ont été inventés comme le dollar, qui a évolué d'une pièce de monnaie qui venait d'Allemagne, qui s'appelait le Thaler. Le dollar a évolué en étant non pas une monnaie comme telle, mais une mesure.
Oui, une représentativité, en fait.
C'est un poids. Ça représentait un poids. Puis le dollar était, en fait, défini comme étant 1/20 d'once d'or. La livre sterling, comme le nom le dit, était une livre d'argent sterling.
OK.
Ils ont établi aussi une équivalence. La livre sterling est aussi 1/5 d'once d'or. Alors, tout ça pour dire qu'en réalité, on avait la livre sterling, on avait le dollar, on avait le franc. Toutes ces valeurs-là étaient des poids différents du même métal. Alors, en réalité, quand on venait pour faire un taux de change, ben c'était très, très, très simple. C'est un dollar US était 1/5 d'une livre sterling. Parce que bon, 1/20 d'once puis 1/5 d'once, ben ça revenait à quelque chose comme 5-1.
Ben c'est ça.
Un ratio de 5-1. Mm. Alors c'est de là que ça venait, puis ça faisait très facile. C'était très très facile de calculer un taux d'échange entre les différentes monnaies du monde à cette époque-là. C'est à l'époque où on était justement, comme Germain Belzile expliquait tout à l'heure, l'étalon or, c'était ça.
Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu déboussolé par tout ça, parce que là, l'or est parti avec des valeurs qui varient, le dollar qui lui aussi varie énormément, puis là, on a conservé des taux de change au niveau des dollars, puis de la monnaie en général, mais pas au niveau, on fait plus nécessairement cette relation-là, là. Quand on calcule les taux de change, il n'y a personne qui se réfère à l'or.
Ben là, de toute façon, c'est parce qu'on a abandonné depuis très, très longtemps l'étalon or par rapport à notre monnaie. Alors, notre monnaie n'est plus basée sur l'or. Il y a beaucoup de gens, comme moi, d'ailleurs, qui croient qu'on devrait retourner à ça. Il y a une très, très bonne raison pour ça. C'est parce que ça limite beaucoup l'inflation quand l'argent est attaché à l'or. Comme Germain Belzile l'expliquait, les banques centrales, en ce moment, sont capables d'imprimer des quantités illimitées d'argent, mais ça, c'est pas vraiment bon pour le marché d'avoir l'habilité d'imprimer des quantités illimitées d'argent. ça peut amener justement à des scénarios, comme Germain l'expliquait, du Zimbabwe, où on a de l'hyperinflation. L'Allemagne a aussi vécu ça, un épisode dans les années 20, 1920-1923, dans ce bout-là, où ils ont justement eu un épisode où ce que l'inflation était tellement rampante que les gens se promenaient avec littéralement avec des brouettes pleines de billets de banque pour aller faire leur épicerie. Là.
Ben oui.
Mais, alors,
puis c'est vrai que
les murs avec des Deutsche Mark.
Mais c'est vrai que puis c'est impossible justement de créer artificiellement de l'or. Fait que somme toute, on contrôle beaucoup l'inflation du fait qu'il faut avoir ce métaux-là là, pour le monnayer, en fin de compte.
Ben effectivement, c'est parce que là, à ce moment-là, quand on a un étalon or, on se trouve avec une masse monétaire. On reprend des termes que, justement, c'était le fun, le segment de Germain, parce que ça permet de définir les termes à l'avance.
Ben oui.
mais on se retrouve, justement, avec une masse monétaire qui est beaucoup plus stable.
Ben oui.
C'est beaucoup ça qui est l'avantage. Alors, là, justement, ben, c'est là quand on rentre dans le chapitre au niveau de la coexistence de différentes monnaies. Comment est-ce qu'on fait coexister différentes monnaies sur le marché? Ben c'est simple. Si on peut utiliser par exemple des monnaies, la monnaie elle pourrait être basée sur l'or, elle pourrait être basée sur le platine, elle pourrait être basée sur l'argent. Ça fait pas vraiment de différence à ce niveau-là, tant que c'est le marché qui choisit volontairement le médium, comme en fait c'était le cas avant, je dirais un petit peu avant le 20e siècle, c'est que l'or a été considéré comme une monnaie pendant très longtemps, n'était pas un fait d'un décret gouvernemental. C'est le marché qui a choisi l'or, c'est pas un gouvernement quelconque qui a dit du jour au lendemain, ben on utilise l'or en tant que monnaie. Alors, l'or est vraiment une monnaie qui a été vraiment choisie par le marché. Alors, c'est une monnaie naturelle, si on peut dire.
Puis là, justement, parce qu'on veut parler de la monnaie privée, là, ça, c'est des principes qui s'accordent bien avec les principes de monnaie, justement, qui sont assez souvent gérés par les gouvernements puis qui ont été mis en place par ces mêmes individus. Mais quand on voit apparaître, justement, la monnaie privée, parce que la monnaie privée, ça existe, c'est pas un concept bidon, là, c'est pas un trip intellectuel.
Non. En fait, même à aller jusqu'à récemment, il y en avait un très bon exemple de monnaie privée aux États-Unis.
Oui, parce que là,
le Liberty Dollar, ils ont arrêté les gens, le FBI a arrêté les gens qui fabriquaient le Liberty Dollar récemment. Ben, récemment, ça fait une année. Là,
parce que c'est ça, dans ton courriel, tu m'as envoyé, là, il y a deux exemples là, bien précis. Il y a en Angleterre, et là, on remonte quand même entre 1750 et 1780.
Environ.
Donc, la Banque d'Angleterre qui négligeait de frapper des pièces de monnaie. Et là, on a eu une pénurie.
Oui, bien, effectivement, en Angleterre, à cette époque-là, en grande partie parce que l'équipement de la Banque d'Angleterre était devenu désuet. Alors, ils ont cessé de frapper des pièces de petit change, des sixpence, des halfpenny, des penny, des halfpenny. Alors, essayez d'imaginer ça un petit peu, le tableau que ça donnait. Essayez d'imaginer aujourd'hui si on n'imprimait pas de monnaie en dénomination en bas de 100 $.
Ouais. Ça irait pas bien.
Ça irait pas très, très bien, étant donné que, je veux dire, la plupart, en Angleterre, il n'y avait pas de pièces de monnaie qui étaient frappées en bas de la pièce, de la pièce d'une livre. Alors, ça, c'est un peu, ça, à l'époque, c'était un peu l'équivalent de dire, on ne frappait pas rien en bas de 100 $. Parce que la plupart des employés, des travailleurs à l'époque étaient payés comme environ 5 livres par semaine.
Ouais.
Alors, ça a causé une très grosse pénurie de petits changes. Alors, à un certain moment donné, ben, des compagnies privées ont décidé de, ouais, ben, si le gouvernement ne le fait pas, nous autres, on va le faire. Puis c'est des aussi étrangement que ça puisse paraître, ben, c'est des compagnies minières puis des compagnies de boutons. Parce qu'à l'époque, les boutons étaient fabriqués, les boutons d'habits étaient fabriqués en cuivre.
Ben oui.
Puis étaient frappés avec des designs assez évolués. Il y avait des excellents graveurs qui travaillaient pour les fabriques de boutons à l'époque. Alors, ils se sont mis. La différence entre un bouton en réalité puis une pièce de monnaie, c'est que le bouton, tu le frappais juste d'un côté, puis la pièce de monnaie, tu le frappais des deux. Mm. Alors, ils sont tout simplement réoutillés, puis ils sont mis à créer des pièces de monnaie, des petites dénominations. En fait, c'était pas officiellement des pièces de monnaie, ils appelaient ça des jetons.
OK.
Qui étaient, en fait, des promesses de payer de la valeur qui était marquée dessus. Par exemple, si tu avais des pièces, des jetons de 1 pence, ben c'était une promesse de la compagnie qui émettait de vous payer un pence, de vous rembourser un pence sous présentation de la pièce de monnaie en question.
Puis ça se fait aujourd'hui, aller dans les lavatos où on vous vend des jetons ou dans les parcs d'amusement où vous pouvez monnayer votre jeton, puis votre jeton devient votre monnaie pour la journée.
Oui, à la différence que les jetons anglais à l'époque étaient acceptés dans tous les commerces.
Oui, c'est ça.
Du moins dans une région, régionalement, là. Il n'était pas nécessairement accepté à la grandeur de l'Angleterre à l'époque, mais il était dans une région donnée, par exemple, dans une compagnie minière était règle générale centrée dans une région en particulier de l'Angleterre, ben, quand il mettait des pièces de monnaie, il allait dans cette région-là, puis il était probablement pas accepté ailleurs que dans cette région-là. Mais par contre, à l'intérieur de cette région-là, il circulait puis il était accepté partout.
Mmh.
Alors, ça permettait justement aux employés de ces compagnies-là de pouvoir se servir de ces jetons-là pour acheter tout ce qu'ils avaient besoin.
C'est ça. Puis tu y vas aussi d'un autre exemple en Californie, en 1849, c'était un peu le genre de même de principe. Puis là, c'est que le gouvernement américain, à cause de la distance, avait de la difficulté à atteindre les territoires puis était incapable de les fournir en pièces de monnaie.
Oui, bien effectivement, c'est une situation un peu cocasse parce que en Californie, en 1849, il y a eu la fameuse ruée vers l'or. Alors, il y avait plein d'or en Californie. Mais il n'y avait pas, étant donné que tout l'outillage puis toute l'attirail pour frapper des pièces de monnaie aux États-Unis était tout du côté de l'Est,
ben,
il
n'y
avait pas vraiment ben plus loin que le Mississippi. c'était très 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 dur d'acheminer. Ben premièrement à l'époque, c'était très difficile de se rendre en Californie par voie de terre à cause des rocheuses. C'était très difficile de traverser les rocheuses pour se rendre en Californie. Alors, pour se rendre en Californie, bien souvent, il fallait se rendre par la mer. Puis pour faire ça, il fallait faire le tour du Cap Horn au bout de l'Amérique du Sud pour revenir remonter la côte pacifique jusqu'en Californie, ce qui faisait un très, très long voyage.
Bon, oui, parce que là, c'est à l'époque où c'était le grand Far West, là, puis là, si on s'aventurait dans le désert, là...
Là, c'était vraiment le Wild Frontier.
Oui, c'est ça.
Alors, c'était vraiment, là, très, très éloigné. Il n'y avait pas beaucoup de voies de communication.
Et c'est d'ailleurs là qu'on a tourné les premiers films de cowboy.
Alors, oui, c'est ça, effectivement. Alors, c'est très, très, très difficile d'acheminer des nouvelles pièces de monnaie en Californie. Alors, il se ramassait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'or en Californie, mais pas beaucoup de monnaie. Alors, il y en a qui ont pris l'initiative. Ben, pourquoi est-ce qu'on fait pas notre propre monnaie? Alors, c'est ça qui est arrivé.
C'est bien, oui.
Ils se sont mis à frapper des pièces de 5 $, de 10 $, de 50 $.
Mais ça, c'est des belles exemples, justement, de monnaie privée, puis c'est quand même assez récente. Puis là, il y a quelque chose qui me frappe parce que quand on a commencé à s'échanger les courriels là-dessus, là, tu m'as dit, ouais, mais écoute, tu savais-tu qu'il y avait des lois contre la production de monnaie privée?
Ben, effectivement.
Puis là, je me suis dit, qui c'est qui peut interdire quelqu'un de constituer une monnaie? Puis je veux dire, s'il y en a qui sont, je veux pas dire assez fous, mais je veux dire, s'il y a des gens qui sont prêts à la considérer, comment on peut avoir des lois
pour empêcher? Là, c'est parce que, effectivement, tous les gouvernements ont des lois qui appellent la loi du cours légal, ou en anglais, ils appellent ça the legal tender laws. C'est une loi qui, effectivement, interdit quiconque de produire de la monnaie à part pour le gouvernement ou par extension, parce que le gouvernement délègue ce pouvoir-là maintenant aux banques centrales. Alors, effectivement, c'est défendu de frapper de la monnaie. Ici au Canada, c'est la monnaie royale canadienne puis la Banque du Canada qui s'occupe de frapper la monnaie royale s'occupe des pièces de monnaie.
Ouais,
la Banque
c'est
du
ça.
Canada s'occupe d'imprimer les billets de banque. Alors, il n'y a rien qu'eux au Canada qui ont le droit d'émettre de la monnaie. Papier ou en métal.
Là, je vais faire mon néophyte, là. Canadian Tire, comment est-ce qu'ils font pour contourner ça?
Ben, Canadian Tire, en réalité, c'est parce que ce qu'ils
t'as
font,
droit à qui?
L'argent Canadian Tire, c'est pas vraiment de l'argent.
Non?
OK. C'est pas, ben, d'ailleurs, elle n'a pas cours légal, ce qui veut dire que tu peux pas prendre des dollars Canadian Tire puis aller faire ton épicerie avec.
Non, pas encore.
OK? Non, pas encore. Effectivement, il y a eu des exemples de commerçants qui sont mis à accepter de l'argent Canadian Tire, mais en réalité, ça revient un petit peu à dire l'argent Canadian Tire, en réalité, c'est plus comme des coupons
rabais. Ouais, des coupons rabais, c'est ça.
OK? Alors, il n'y a pas personne qui utilise l'argent Canadian Tire pour payer pour la totalité d'une facture. Ils vont toujours payer un petit peu d'argent en plus de l'argent Canadian Tire. Alors ça équivaut plus à un coupon rabais. Alors c'est pour ça que l'argent Canadian Tire c'est pour ça que la GRC vient pas défoncer les portes de Canadian Tire là encore.
Pas encore.
Mais par contre, si je mentionnais tout à l'heure l'exemple du Liberty Dollar aux États-Unis. Ben aux États-Unis, de 1999 à 2009, il y avait une compagnie qui produisait des pièces de monnaie puis des certificats d'or et d'argent qui pouvaient être utilisés comme valeur d'échange. Du moins, c'était l'idée. Leur idée, c'était justement un groupe de libertariens qui avait fondé ça. Puis leur idée était de briser le monopole de la Réserve fédérale aux États-Unis. Malheureusement, ils ont appris à leurs dépens que à propos des lois du cours légal aux États-Unis, parce qu'ils ont été arrêtés par le FBI. Il y a une couple d'années, puis ils ont été condamnés très récemment sur 4 chefs d'accusation de faux monnayage. La Réserve fédérale a le droit de le faire, mais pas vous autres.
Fait que ça veut dire que le gouvernement s'est donné un droit de regard là-dessus, puis c'est lui qui par décret, là, se donne le pouvoir de...
Effectivement, le gouvernement se donne le monopole dans la création de monnaie, puis il le garde jalousement.
OK.
Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous pouvez pas aller puis frapper votre propre monnaie.
Ouais,
puis dire, puis en réalité, puis c'est ça la différence un petit peu, parce que les libertariens, on parle souvent du marché libre, comment ça pourrait fonctionner, puis je passe beaucoup de temps à expliquer ça sur mon blog, d'ailleurs. Puis, la monnaie libre, la monnaie privée, c'est un des aspects du marché libre. C'est une monnaie, justement, qui est acceptée par le marché, librement, contrairement à ce qu'on vit en ce moment, qui est une monnaie qui nous est imposée. Alors, c'est un petit peu ça qui fait la différence entre monnaie privée puis monnaie imposée par le gouvernement.
Oui, ben ce que tu qualifies d'une monnaie étatique, là.
Une monnaie étatique, exactement. Alors, on parle d'une monnaie qui est imposée à la population. C'est le gouvernement qui décrète, vous utilisez les billets de banque qu'on vous donne, là, peu importe qu'est-ce qu'ils valent, même s'ils n'ont aucune valeur comme telle.
Ben, c'est ça qui est... puis il y a beaucoup de gens qui, sans dire, tombent dans des scénarios de conspiration, mais qui disent, écoute, cet argent-là, parce que quand on parle souvent des dettes, en fait, c'est ça, on doit des dollars, puis on se dit, ouais, mais cet argent-là, si demain matin, on décide de constituer une monnaie privée, puis on reconnaît plus les dollars que le gouvernement veut qu'on reconnaisse, on pourrait s'éviter peut-être, justement, des obligations?
Ben, c'est un fait. Mais le gros avantage qu'il y aurait par rapport à la monnaie privée, c'est que justement, premièrement, ce serait une monnaie qui serait acceptée volontairement par tous les acteurs du marché, plutôt que d'être imposée. Deuxièmement, étant donné que la monnaie n'est pas contrôlée par un monopole, ça fait aussi que ça fait une monnaie un petit peu plus stable, dans le sens que, présentement, le gouvernement a ce monopole et l'utilise d'ailleurs pour financer ses déficits.
Tout à fait. Ça, c'est là où ça blesse un peu. Là.
C'est là que ça blesse beaucoup, en fait, parce que quand on regarde ça, je sais que Germain Belzile expliquait brièvement un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait, l'inflation. Mais l'inflation, en règle générale, c'est un phénomène monétaire. C'est plus on crée de la monnaie, plus les prix augmentent. Bien souvent, le phénomène, c'est pas un phénomène qui est uniforme. Quand on imprime de l'argent, les prix augmentent pas immédiatement. Ils prennent un certain temps augmente. Alors là, l'argent, il se diffuse pas dans l'économie uniformément. Il va d'abord aller dans les mains de un, puis après ça dans les mains de l'autre, puis il va circuler comme ça. Il va se propager par vague, si on veut. Alors, ceux qui bénéficient le plus de ce système-là, c'est ceux qui sont le plus proches de la source de l'argent.
Ouais. La Banque canadienne, ici, on parle au Canada, puis les banques.
Exactement. Les banques, les banques, le gouvernement, tous ceux qui font affaire avec le gouvernement, sont ceux qui reçoivent le nouvel argent en premier avant que cet argent-là commence à perdre sa valeur puis que les prix montent. Mm. Alors, ces gens-là ont accès à de l'argent supplémentaire que le reste du monde n'ont pas accès à un moment où cet argent-là vaut plus. Le temps que cet argent-là descende puis qu'il va rejoindre le monde ordinaire, puis en particulier ceux qui sont à revenus fixes. Ben. Là, à ce moment-là, les prix ont augmenté, puis c'est eux autres qui payent le prix. Alors, en réalité, l'inflation, c'est une taxe, un peu comme une taxe cachée.
Ben, c'est ça.
Si on veut, c'est un transfert de richesse qui se fait, règle générale, des personnes les plus pauvres de la société vers les personnes les plus riches.
Puis, donc, en fait, l'argument, le fondement même de dire qu'on devrait aller vers une monnaie privée, c'est de dire qu'une monnaie privée est plus stable et permet une croissance économique plus stable, donc.
Ben effectivement, oui. Puis, comme l'expliquait Germain Belzile, l'idéal, en réalité, c'est qu'au niveau de l'inflation, ben ça serait de ne pas en avoir.
C'est ça.
Ou même, peut-être, moi, j'irais même aller dire juste une légère déflation. parce que avec une légère déflation, ton pouvoir d'achat s'augmente d'année en année plutôt que de diminuer. Avec une légère... puis en réalité, dans un marché libre, on a tendance à dire qu'un marché libre aurait ça comme taux naturel, si on veut, comme tendance naturelle d'avoir une légère déflation.
Ouais.
C'est d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait? C'était exactement ça qui se passait, d'ailleurs, pendant tout le 19e siècle. La valeur du dollar restait à peu près stable. Avec peut-être juste une légère déflation dessus. Alors, mais par contre, depuis qu'ils ont inauguré la Réserve fédérale aux États-Unis, puis depuis qu'ils ont qu'ils ont créé la Banque du Canada ici au Canada, le dollar américain et le dollar canadien ont perdu pratiquement toute leur valeur initiale. On parle aujourd'hui aux États-Unis. Le dollar américain a perdu environ 97% de sa valeur par rapport à 1913 quand la Réserve fédérale a été créée. Mm. Puis ici, on parle de d'un environ de 93-94%.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient à certaines conspirations, parce qu'on se dit, à qui ça profite derrière ça, tu sais, derrière la Banque du Canada, tout ça, tu sais, on n'est pas certain d'où c'est vont, tu sais, d'où vont toutes ces patentes-là, là, justement, économiques.
Si vous vous interrogiez au sujet des profits faramineux que les banques font, là,
ouais.
Ben, c'est ça.
Ouais. Puis ultimement, je pense qu'on pourra inviter sur l'émission Daniel Letulippe qui peut nous parler de la constitution de la Banque du Canada qui remonte à pas très si long. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est une centaine
d'années. 1934.
Ouais, c'est ça. Ça a même pas encore 100 ans. Puis derrière tout ça, des fois, on associe la Banque du Canada. On pense que c'est 100%. C'est pas le gouvernement. C'est privé, hein. C'est géré.
Ben, je te dirais, c'est privé. C'est à peu près privé autant que Bell Canada était privé avant qu'il déréglemente le marché des communications.
Ben, c'est ça.
Alors, c'était privé, oui, mais c'est un monopole protégé du gouvernement. Mm. Puis d'ailleurs, le gouvernement de la Banque du Canada doit être approuvé par le cabinet.
Ben.
Alors, quand il y en a qui disent que c'est privé puis que c'est indépendant du gouvernement...
Non, non, non.
C'est pas totalement vrai.
Et là, je ramènerai des paroles prononcées par Régent Breton. Un monopole, c'est grave, mais deux monopoles...
Oui, ben effectivement.
Là, c'est l'hécatombe.
Les gens avaient définitivement l'affaire là-dessus. Là.
Hey, Philippe, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais acheter d'autres choses, mais je voulais surtout te laisser du temps pour que tu nous parles de ton blog... Le Minarchiste québécois.
OK.
Parce que tu fais un excellent travail avec ça. Puis écoute, je vois souvent les tweets là passer, puis il y a beaucoup de gens qui font référence à tes articles, puis t'en produis de façon régulière. Parle-nous un peu de où tu t'en vas, puis de où tu pars justement avec ton blog.
Bon, ben tout d'abord, je dois dire que, d'abord, mon blog, c'est pas toujours appelé Le Minarchiste québécois. Là. Il y a eu un temps, ça s'appelait Réalité virtuelle, à l'époque où je me cherchais un petit peu. J'ai commencé, d'ailleurs, Danny me connaît depuis un petit peu, un petit bout de temps, parce que on s'était croisés quand j'étais à mes débuts comme blogueur.
On était tous les deux à nos débuts.
Oui, 2006. Oui, c'est effectivement. Là, on fréquentait les mêmes blogs. On avait des mauvaises fréquentations,
exact.
D'ailleurs.
Toi, t'es encore, moi, je les ai éliminés.
Alors, je vais dire que non, j'en ai pas tant que ça des mauvaises fréquentations maintenant, là, mais n'empêche que j'ai quand même des relations cordiales avec certains blogueurs gauchistes encore aujourd'hui, mais ceux à qui on avait affaire à l'époque, je leur parle plus tant que ça.
C'est bon, c'est bon.
Mais toujours est-il que bon, puis et aussi étrange que ça puisse paraître d'ailleurs, c'est à l'époque, quand j'ai commencé à bloguer, j'étais pas ce qu'on appelle un libertarien, ou du moins, je me reconnaissais pas comme tel. J'ai découvert le libertarianisme, aussi étrange que ça puisse paraître, à travers un blogueur gauchiste.
Ah oui?
Oui, qui s'appelait Renard Léveillé.
Oui, OK.
D'ailleurs, ceux qui sont des blogueurs habituels, des gros addicts des blogs le connaissent probablement parce que il a son propre blog, il est très 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 populaire sur la blogosphère. Alors lui, à un certain moment donné, il avait posté un article pourquoi je ne suis pas un libertarien mais j'aimerais l'être, alors, il expliquait pourquoi est-ce qu'il n'était pas un libertarien, mais qu'il avait certaines sympathies envers le libertarianisme. Puis, à travers ça, il m'a fait connaître le blog du Québécois libre Martin Mars. Nice. Alors, ça, là, je me suis garoché là-bas, comme on dit. Puis là, j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le libertarianisme, sur l'économie, etc., etc. Ce qui m'a amené, justement, à finalement changer l'orientation de mon blog. De l'orienter vers le libertarianisme, puis plus précisément vers une branche du libertarianisme qui s'appelle le minarchisme.
Puis tu vas nous expliquer c'est quoi le minarchisme?
Oui, parce que en début d'émission, je t'ai appelé le mini-archiste.
Oui, non, c'est le minarchiste.
À ne pas confondre.
À ne pas confondre, non, effectivement. Alors, le minarchisme, en réalité, c'est une branche du libertarianisme qui croit Parce que le libertarianisme comme tel est une philosophie qui est anti-étatique.
Ouais.
En d'autres mots, qui rejette l'hégémonie de l'État sur la vie des gens. Là, maintenant, là-dedans, il y a plusieurs courants de pensée. Il y a l'anarcho-capitaliste qui veut se débarrasser de l'État complètement. Le minarchiste, par contre, lui, croit que l'État a encore sa place, mais seulement au niveau des fonctions régaliennes, justement.
Oui, et je me souviens que tu avais dit, garde, c'est en plein ça, en fait, le minarchiste. Quand on avait parlé des fonctions régaliennes, là, j'avais vu un tweet passer là-dessus.
Oui, bien, effectivement, c'est ce que le minarchisme propose. Le minarchisme, c'est de réduire l'État à son expression la plus simple, c'est-à-dire à ses fonctions primaires, c'est-à-dire l'armée, la diplomatie, la justice, puis la police.
Mais dis-moi, Philippe, là, est-ce que t'es un des précurseurs par rapport au minarchisme? Parce que est-ce qu'il y en a quelques-uns au Québec qui ont cette, comme tu dis, cette branche-là plus spécifique par rapport
Ben là, en réalité, même il y a même un autre blog québécois qui s'appelle Le Minarchiste, à ne pas confondre avec le minarchiste québécois, qui est effectivement un autre type qui tient le même qui adhère à la même philosophie si on veut que moi. Puis d'ailleurs, qui a nommé son blog avant de savoir qu'il existait déjà un blog qui s'appelait Le Minarchiste québécois, puis qui s'en est même excusé de ma part. Mais là, il était rendu trop tard pour changer le nom de son blog. Il avait déjà commencé, puis il avait déjà commencé à accumuler pas mal d'articles, alors il voulait pas changer le nom de son blog. Je n'en tiens pas rigueur. Mais effectivement, il y en a beaucoup d'autres qui en réalité, le minarchisme se confond aussi beaucoup avec le libéralisme classique, qui est aussi, si on veut, une forme de minarchisme ou, encore une fois, des libertariens qui reconnaissent qu'il y a quand même un rôle de l'État, quoique le libéralisme classique permet aussi d'avoir un rôle de l'État un petit peu plus étendu que le minarchisme. Le libéral classique, lui, va quand même admettre que l'État peut être utile dans d'autres choses que juste les fonctions régaliennes, mettons.
Et j'ouvre une petite parenthèse, parce que quand on va sur ton blog, là, tu cites Frédéric Bastiat, là, tu dis « L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. »
Tout à fait.
Je pense que ça résume très bien là, justement le volet minarchiste là, de la chose.
Ben, Frédéric Bastiat, d'ailleurs, c'est un économiste français du 19e siècle. Effectivement, beaucoup de ses textes ont encore beaucoup de pertinence aujourd'hui. Quand on les lit, on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau des gouvernements. Puis quand on lit Bastiat, effectivement, on dit « Caroline, que c'est donc vrai! »
Et là, quelle direction tu donnes à tes articles? Parce que t'en fais de façon régulière. Est-ce que tu vises toujours vers les mêmes choses ou parce que?
J'essaie de puiser un petit peu dans l'actualité. J'essaie de puiser un petit peu aussi de qu'est-ce que peuvent écrire d'autres blogueurs. Des fois, je suis beaucoup de blogs dans mon agrégateur. J'ai à peu près. Je dois suivre quasiment une centaine de blogs. Quand je prends des vacances, là, j'en ai pour longtemps essayé de rattraper les billets de blog. Alors je fais ça, puis j'essaie de ramener un point de vue justement libertarien. Toi, t'appellerais ça, Danny appellerait ça un spin, si on veut.
C'est sûr.
Alors, j'essaie de mettre un spin libertarien un petit peu sur l'actualité. Je parle beaucoup d'économie, d'ailleurs. Mes connaissances de l'économie se basent beaucoup sur qu'est-ce que j'apprends en lisant des sites comme le Ludwig von Mises Institute ou le Québécois Libre. Le Ludwig von Mises Institute, d'ailleurs, qui est une excellente ressource pour n'importe quel libertarien. C'est d'ailleurs là où ce que j'ai pris la plupart des informations que je vous ai livrées ce soir au niveau de la monnaie. Un des économistes qui était rattaché à ça Murray Rothbard était vraiment une très haute autorité au niveau de la monnaie privée. C'est d'ailleurs de quelques-uns de ses textes que j'ai puisé beaucoup de ces informations. Oh,
puis je pense que, regarde, moi je te lève mon chapeau parce que tu fais l'excellente démonstration que, justement, quelqu'un qui sait se grounder, excusez l'expression anglaise, là, mais puis la blogosphère, c'est une terre infinie, comme tu dis. Écoute, tu dis que tu suis plus d'une centaine de blogueurs, mais il y a moyen de se forger une opinion, puis plus qu'une opinion, même d'en parler comme ça sur une radio, puis de bien le faire. Je pense que, écoute, moi, je te lève mon chapeau parce que il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent dans le coin, tu sais, puis on le sait, là, l'élection au Québec, je veux pas ouvrir une grande parenthèse par rapport à l'élection, mais là, tu sais, ça soulève un problème de société qu'on se documente pas, qu'on s'informe pas, puis qu'on prend des grands choix sans justement s'informer. Je pense que là-dessus, et j'imagine que tu as pris goût à ça à travers les années.
Ah, ben moi, je vous dirais que c'est très, très, très addictif en réalité. Depuis que j'ai découvert la blogosphère comme peut-être des alentours de 2005-2006.
2006, ben, c'est ça.
Alors, depuis que j'ai découvert ça, j'en suis devenu vraiment un gros mordu, moi, personnellement. Ce que je trouve de formidable, la blogosphère, en réalité, c'est que n'importe qui peut faire son entrée là-dedans.
Ouais.
Puis, si vraiment il y a quelque chose d'intéressant à dire, éventuellement, il va être lu. Puis il y a des gens qui vont rentrer en contact avec lui, puis qui vont y jaser, puis que moi j'avoue, en ce moment mon blog commence à prendre un petit peu de popularité, mais j'ai été pendant longtemps à prêcher dans le désert. Alors là, ça devient de plus en plus le fun d'ailleurs, justement au fur et à mesure que mon blog devient de plus en plus populaire. Oui. De pouvoir échanger avec de plus en plus de monde.
Et d'ailleurs, on s'est rencontrés à l'intérieur de l'événement Réseau Liberté Québec. C'est un peu aussi grâce au Réseau Liberté Québec qu'aujourd'hui, on unit tous ces gens-là qui, ils sont capables, puis je pense que t'en es un bel exemple de tirer leur épingle du jeu, mais quand on les réseaute comme ça à travers le Réseau Liberté Québec, là, on multiplie par 100 puis par 1000, là.
Moi, personnellement, je ne tarie pas d'éloges pour les organisateurs du Réseau Liberté Québec. Je leur donne mon plein appui, d'ailleurs. Mon blog a été mentionné, d'ailleurs, au speech d'ouverture de Joanne Marcotte pendant la conférence du Réseau Liberté Québec. J'ai déjà eu l'occasion, même avant de me présenter à la conférence, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Joanne Marcotte puis Éric Duhaime, puis c'est des personnes très formidables. Puis effectivement, ils ont donné l'opportunité à tout un paquet de gens qui parlaient chacun de leur côté, mais on parlait tous pas mal de la même chose, chacun de notre bord, un petit peu d'unir nos forces, si on veut. Moi, je leur lève mon chapeau. Je suis en contact assez souvent avec eux autres sur Facebook, régulièrement. Puis je continue, je vais continuer de rester en contact avec eux autres aussi longtemps que le mouvement va continuer.
Ah oui. Hey, mais lâche pas, Philippe. Et là, donne-nous l'adresse de ce fameux blog, le Minarchiste québécois.
Le Minarchiste
québécois. Mais tu vois, j'ai dit, faut pas que je dise ce mot-là. Et le fait que...
Ça fait deux fois.
Je te laisse dire l'adresse.
OK. Alors, l'adresse, c'est tout simplement www.minarchisteqc.com.
Parfait. Donc, on invite tous les auditeurs de l'émission, évidemment, à le consulter et à t'ajouter aussi. T'es sur Twitter?
Je suis sur Twitter, je suis sur Facebook. Vous avez juste à faire une petite recherche. Sur Facebook, je suis là sous mon propre nom. J'ai aussi une page pour mon blog sur Facebook. Alors, si vous voulez suivre mon blog sur Facebook, vous pouvez le faire aussi. Vous avez juste à rechercher Minarchiste québécois dans Facebook. Vous allez la trouver. Vous pouvez suivre mon blog de cette façon-là ou y aller directement.
Parfait.
Puis vous pouvez effectivement me suivre sur Twitter sous le sobriquet de Minarchiste QC.
OK, ben merci. Bonne soirée, Philippe.
Merci beaucoup, les gars. Bonne soirée à vous aussi.
Oui, au plaisir de se revoir puis de se reparler. C'était une bonne idée, là. On est toujours disponible.
Absolument. Au plaisir.
Merci.
Au revoir.
C'est grâce à lui si on a fait cette chronique sur la monnaie privée. Nous, on le dit, on est des néophytes. On s'intéresse à tout, mais on peut pas être des spécialistes.
On était curieux, tu sais, comment que ça pourrait s'appliquer. Puis on n'est pas là en train de dire que c'est ça qu'il faut.
Non.
Mais c'était une curiosité.
On explore la chose. Puis ça nous permet de construire un argumentaire puis d'avoir une opinion, un autre côté de la médaille. Là.
Exact.
Là, Danny, on pourra pas passer en grande première ta chronique. Kyrion en discute.
Il reste pas grand temps. On peut peut-être parler. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire.
Oui?
Dis-le. Non, moi, j'aimerais...
Il te reste 3 minutes.
Moi, j'ai une affaire à dire, là, puis ça me fait plaisir de que ça soit sur tape.
Ah ouais?
pour l'éternité.
Okay.
Non, sérieusement. Moi, je regarde les résultats d'élection de cette semaine. Écoute, il y a de l'analyse... Il y a un nouvel air dans les médias qui me tracasse puis qui m'énerve un petit peu. Là, on est dans l'ère de l'over-analyse. On analyse tout.
La suranalyse.
Lundi soir, sur la journée d'élection, il n'y avait pas le droit de donner des résultats avant quoi, 22h, 21h30. Ouais. Les émissions spéciales étaient commencées à 19h. Toutes des analyses. Puis j'écoutais... Écoutez, je faisais 39,1 de fièvre lundi soir. J'ai dit, non, on va oublier le vote, là. Moi, je voulais voter le jour même parce que je savais que ça bougeait beaucoup. Puis j'ai dit, je veux voter stratégique. Puis j'ai écouté un petit peu de l'émission de pré-résultats de TVA. Puis ils ont réussi à me pomper en 15 minutes, juste assez pour que je m'habille puis que j'aille voter. Ils m'ont assez écœuré juste en 15 minutes. Ils ont réussi... Avec toutes sortes de faits non prouvés. Quand on parle de Bernier, il faut rappeler qu'il a été pris des documents. Revenez-en. La politique, es-tu rendu à ça? On est-tu en train de faire une émission pour rien, Steve? T'sais? Nous, on essaye d'analyser les choses en profondeur.
C'est décourageant.
C'est décourageant. Moi, ça m'a frustré. Puis j'ai dit de la merde.
C'est pas digne. En passant, quand on parle de la société d'État, c'est nos impôts. Quand on parle de TVA, supposément la TV du peuple, à un moment donné, faut en revenir là aussi de tomber, comme tu dis, là, dans des affaires.
Des anecdotes.
C'est ridicule.
C'est ça. Tu sais, on va-tu éviter de voter pour Maxime Bernier parce qu'il a amené des Joe Louis? La maudite histoire du Joe Louis, là, renseignez-vous donc. Vous allez savoir qu'il y a un fait historique dans le fait qu'il a amené des Joe Louis là-bas puis que les soldats avaient demander qu'il en amène, mais est-ce que les gens vont vous le répéter?
Mais j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'était un show qu'on voulait faire? On est-tu rendu là?
Non, c'est de la paresse intellectuelle. Tout simplement, les journalistes ne travaillent plus.
J'ai l'impression qu'on voulait rendre ça sexy puis qu'on voulait faire ça comme un peu à la télé-réalité. Ouais. Là, pis...
Non, moi, sérieusement, je l'ai pris comme étant des paresseux.
Ouais,
et ça m'a fâché. Je me dis, des paresseux, là, ça fait pas une émission de 2h30 avant que les vrais résultats commencent. Si t'es paresseux, là, prends ton show à 9h30, t'auras pas besoin de déblatérer puis trouver des sujets plates pendant 2h30 si t'es un lâche. Moi, ça m'a fâché là, tellement que je me suis habillé. Je suis revenu de voter, j'étais tout trempé parce que j'étais fiévreux, c'était incroyable, mais j'ai dit là, c'est pas vrai là, que je vais laisser passer une vague là, parce que ça m'a vraiment écœuré. Donc je suis allé voter pareil, j'ai perdu mon élection, je vous le dis, moi j'avais voté Sylvie Boucher dans Beauport-Limoilou. J'ai perdu mon élection, mais c'est pas grave, ils ont réussi à me pomper assez avec leur travail de pee-wee, ça m'a fâché. L'autre affaire que je veux souligner avant de partir, puis que je veux qu'ils soient enregistrés pour la prospérité, là... Je veux dire, là, écoutez, moi, là, je vous le dis, je suis un souverainiste, puis j'ai aucune honte avec ça. Je suis à peu près la seule personne de droite dans tout ce qui est Réseau Liberté Québec.
Oh, là, c'est quasiment un coming out, parce que...
Non, c'est pas un coming out, je l'ai dit depuis tout le temps. Quand je m'écœurais avec les gens que Philippe parlait, là, sur des blogs en 2006, là, je m'écœurais avec des souverainistes, puis je leur disais, je suis souverainiste, mais ta façon de voir la souveraineté, c'est de la bullshit, tu sais, c'était vraiment ça. Et moi, là, il y a absolument rien qui peut me faire voter oui avec ce que le mouvement souverainiste est devenu à cause justement des mouvements gauchistes anti-américains, anti-Israël, puis tout ça m'écœure. Et la façon de faire de la politique de Gilles Duceppe, là, je veux plus revoir ça dans ma vie. Je sais que le monde l'ont pas sorti parce qu'il insultait tout le monde, puis tout ça, mais j'aimerais ça que ça soit ça la raison.
Ouais, ouais.
La politique à la insulte, à la haine entre dire que les Canadiens anglais, c'est ici, puis c'est ça. Je veux plus voir ça de ma vie. J'espère que la défaite de Gilles Duceppe, même s'il n'est pas pour ça, malheureusement, J'espère que ce type de politique-là
c'est
n'existera
terminé.
Plus. On peut-tu avoir des débats intelligents? On n'est plus dans les années 30 sur un parquet d'église entouré de gens pas éduqués. Là. Moi, j'en viens pas. Puis je me demande si les artistes n'ont pas décidé de pas trop s'impliquer justement pour défendre du CIEP parce qu'il est plus présentable avec ses insultes tout le temps. Il a dit, entre autres, pour terminer, là, moi, la pire insulte que j'ai entendue, là, c'est qu'il a dit que, pour parler des conservateurs, il a dit que les pierres à feu étaient un pur documentaire.
T'sais? Non, je sais.
C'est rendu bas, là, donc c'est plus jamais de la politique à la Jules du CIEP, plus jamais, OK? S'il vous plaît, merci.
Ben, passe une bonne semaine là-dessus.
Yes.
On se laisse. La semaine prochaine, vous êtes de retour à connaître la suite. On vous attend.
Voilà.
Bonne semaine, tout le monde.
Bye.